télé, radio et digital. Good Morning Business. Stéphane Pedrazzi.
Il est 6h59, bonjour à tous, bon réveil, merci d'avoir choisi BFM Business et RMC Découverte pour vous accompagner ce matin. À la une de l'actualité, le FMI assombrit une nouvelle fois ses perspectives pour l'économie mondiale, conséquence évidemment de l'inflation et de la guerre en Ukraine. Le Fonds monétaire international désormais anticipe une croissance de 3,2% pour cette année et de 2,9% pour l'an prochain. En cas d'interruption des livraisons de gaz russe, le tableau est encore plus noir, on fera le point dans quelques instants. Les prix de l'électricité sont en train d'exploser pour l'hiver prochain. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les prix à terme ont pratiquement doublé en l'espace de quelques semaines. La France est particulièrement touchée par cette envolée des tarifs. On verra pourquoi avec Emmanuel Le Chypre tout à l'heure à 7h50. L'actualité entreprise dominée évidemment par les publications de résultats semestriels. Malgré la dégradation de la conjoncture, beaucoup de chiffres confirment la solidité de nos entreprises françaises. Deux chefs d'entreprise pour en parler ce matin. D'abord Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred. Il sera avec nous à 7h45 et à 8h15, je recevrai Christophe Périlla, le directeur général de Valeo. Et puis on vous racontera également ce matin la guerre froide qui se déroule à 400 km au-dessus de nos têtes. La Russie va stopper sa collaboration au sein de la Station Spatiale Internationale. Le divorce ne sera effectif qu'en 2024, mais il pourrait compromettre l'avenir de l'ISS, dont l'exploitation devait être prolongée jusqu'en 2030. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et on commence par un premier point sur l'actualité avec Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour.
Le pessimisme du FMI qui voit les prévisions s'assombrir pour l'économie mondiale.
Oui, alors que la Fed se réunit aujourd'hui, Jérôme Powell doit annoncer une nouvelle hausse des taux. Elle devrait être de 0,75 points de base. L'enjeu, c'est d'éviter une récession aux États-Unis, car c'est bien ce risque qui menace l'économie américaine, mais aussi la zone euro. Pour le FMI, l'espoir est faible. Raphaël Couder, bonjour. Il faut se préparer à un ralentissement mondial.
Oui, les perspectives sont de plus en plus sombres, alerte le chef économiste du FMI. Le PIB mondial devrait croître de 3,2% cette année. C'est 0,4 points de moins que ce que le FMI prévoyait jusqu'à présent. Le Fonds monétaire international qui estime que la croissance va ensuite ralentir à 2,9% l'an prochain. En cause, la guerre en Ukraine et la flambée inflationniste plus importante que prévu. Toutes les zones économiques sont touchées. Aux États-Unis, l'inflation atteint plus de 9% en juillet et elle pèse énormément sur le pouvoir d'achat des ménages. Résultat, la croissance sera seulement de 1% l'an prochain selon le FMI. Et pour les prochains mois, la probabilité que le pays échappe à une récession est faible en Chine. C'est la stratégie zéro Covid qui freine fortement la croissance cette année. Elle s'effondrerait à 3,3% cette année contre plus de 8% l'année dernière. Quant à l'Europe, le FMI abaisse également sa prévision de croissance de 0,2 points. Ce sera 2,6% de croissance cette année. C'est là encore l'effet de la guerre qui plombe le continent avec des conséquences sur l'activité qui s'observe principalement en France, en Allemagne et en Espagne. Pour l'an prochain, tout dépendra de l'approvisionnement en gaz russe, mais le FMI table sur une quasi-stagnation du PIB comme aux États-Unis.
Et en revanche, Raphaël, le Fonds monétaire international note que la Russie se sort mieux que prévu des sanctions internationales.
Oui, effectivement, l'économie russe s'est moins contractée que prévu au deuxième trimestre. Les exportations de pétrole, mais aussi de produits non énergétiques se maintiennent, ce qui permet effectivement d'atténuer les conséquences des sanctions occidentales. La demande intérieure fait également preuve de résilience, note le FMI. L'affaiblissement du marché du travail n'est pas aussi important que ce que les analystes attendaient. Résultat, la croissance russe devrait se contracter de 6%. En 2022, un plongeon important, certes, mais finalement bien moins sévère que la baisse de 8,5% sur laquelle tablait le FMI jusqu'à présent.
Merci Raphaël, et Jérôme Powell prendra la parole demain à 14h30 lors d'une conférence de presse. La Fed qui se réunit aujourd'hui et demain, qui a déjà décidé mi-juin d'une hausse record de ses taux directeurs, doit aussi annoncer le rythme à suivre pour les mois prochains pour sortir les États-Unis de la spirale inflationniste.
Un nouveau vote à l'arraché à l'Assemblée nationale cette nuit, Claire.
Eh oui, le projet de budget rectificatif vient d'être adopté en première lecture avec 293 voix pour. Les députés Rassemblement national n'ont pas participé au scrutin. Ils ont quitté l'hémicycle en signe de protestation. Un amendement en faveur d'une revalorisation des retraites pour 500 millions d'euros d'abord adopté hier a finalement été rejeté par un nouveau vote plus tard dans la nuit. Le projet de renationalisation d'EDF est approuvé.
Au chapitre des résultats, LVMH confirme une nouvelle fois sa très bonne santé.
Avec des résultats semestriels solides, les ventes sont en hausse de 28% au premier semestre sur un an à 36,7 milliards d'euros. Et le bénéfice net de 6,5 milliards d'euros au premier semestre progresse de 23% sur un an. LVMH poursuit sa forte croissance malgré le contexte international, l'inflation et malgré la Chine qui pèse, mais pas assez visiblement pour le faire plancher, Pauline Tadevin.
Oui, la Chine pèse. Les ventes ont baissé de 8% au deuxième trimestre sur un an en organique, en Asie, hors Japon. Cette situation est douloureuse. Painful, a répété plusieurs fois le directeur financier du LVMH hier soir. Le groupe qui adopte la stratégie du wait and see, dit-il aussi, persuadé que cela va repartir en Chine quand les restrictions sanitaires seront levées. Mais les difficultés en Chine sont compensées par des ventes qui progressent ailleurs dans le monde, en Europe et aux États-Unis notamment, où le groupe investit beaucoup. Pour l'instant, les hausses de prix passées par les différentes maisons du groupe, de l'ordre de 3 à 7-8% en début d'année, ne découragent pas les clients. Ce qui fait sa force, d'après LVMH, c'est un portefeuille diversifié et équilibré.
Et si on regarde le détail, Pauline, toutes les activités progressent.
Oui, tirées toujours par la mode et la maroquinerie, qui réalisent à elles seules plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans la distribution sélective, DFS souffre en Asie, mais Sephora rebondit fortement. On note quand même le ralentissement du parfum. Les vins et spiritueux progressent, surtout le champagne. Le cognac s'est repris au deuxième trimestre après un ralentissement début d'année dû à la Chine, dû aussi à des difficultés logistiques rencontrées aux États-Unis. Au sujet des risques de récession aux États-Unis, justement, le directeur financier a eu cette phrase hier soir: on n'est pas des économistes, on fait du business. En résumé, le groupe progresse là-bas et si la situation devait s'aggraver, il s'adapterait. La direction de LVMH qui se dit confiante mais vigilante pour la suite et qui adopte, comme l'a répété plusieurs fois son directeur financier, la wait and see attitude.
Merci beaucoup Pauline Tadevin, toujours dans le secteur du luxe. Kering présentera aujourd'hui ses résultats semestriels, publication parmi les 80 et quelques entreprises qui dévoilent cette semaine leurs chiffres semestriels.
L'Europe se prépare à un hiver sans gaz russe et adopte son plan de réduction après des discussions houleuses. Un compromis a été trouvé entre les 27. Seule la Hongrie s'y est opposée. L'objectif de réduire de 15% sa consommation de gaz d'ici mars est maintenu, mais il y a des exemptions et des dérogations. Exemple, un pays comme l'Espagne pourra ramener son objectif d'économie à 7% s'il montre qu'il est faiblement connecté au réseau gazier européen.
L'Allemagne, l'un des pays particulièrement exposés au gaz russe, se prépare à un véritable scénario noir pour l'hiver prochain.
Oui, la baisse drastique des livraisons depuis Moscou a déjà poussé Berlin à relancer le charbon. La coalition menée par Olaf Scholz réfléchit maintenant à repousser la fermeture de ses dernières centrales nucléaires. Étienne Henry.
Le nucléaire est de retour outre-Rhin. Très dépendante au gaz russe qui se raréfie semaine après semaine, l'Allemagne a remis sur le tapis la question de l'énergie nucléaire, en principe abandonnée à la fin de l'année. Le gouvernement a indiqué lundi qu'il trancherait dans les prochaines semaines. La décision repose sur les résultats des tests de sécurité sur les centrales. Les libéraux du FDP mettent la pression sur la coalition gouvernementale en réclamant une prolongation jusqu'au printemps 2024. Du côté des Verts et des sociaux-démocrates, le sujet n'est plus tabou et un changement de cap semble désormais possible, tant la situation énergétique est tendue outre-Rhin. Une position inimaginable avant la guerre en Ukraine, mais la flambée des coûts de l'énergie et la crainte d'une pénurie de gaz russe change radicalement la donne, 11 ans après la décision d'Angela Merkel d'engager le pays dans la sortie de l'atome.
Un air de guerre froide dans l'espace, la Russie se retire de la Station Spatiale Internationale, représailles évidemment aux sanctions occidentales.
Ah oui, c'est l'avenir même de la Station Spatiale Internationale qui est remis en question. Moscou partira après 2024, le temps de créer la station orbitale russe. L'industrie aérospatiale devient un nouveau terrain d'affrontement entre Moscou, Washington, Berlin et Paris. Alexandra Paget.
L'ambiance ne doit pas être à la fête dans la Station Spatiale Internationale. Pour faire bonne mesure, la Russie a aussi annoncé qu'elle arrêtait toute coopération scientifique avec l'Allemagne à bord, où se trouvent actuellement 4 Américains, 2 Russes et 1 Allemand. L'ISS repose en effet sur la coopération. Elle a d'ailleurs été pensée sur un schéma d'interdépendance entre 2 segments. Un Américain qui fournit l'alimentation électrique et un Russe sans lequel il n'y a pas de correction d'orbite possible. Or, celles-ci sont tout aussi vitales que l'électricité. Et cet arrêt brutal de la coopération spatiale ne concerne pas que l'ISS. La Russie ne lancera plus jusqu'à nouvel ordre de fusées Soyouz depuis Kourou, le centre spatial guyanais d'où des ingénieurs et des techniciens russes ont d'ailleurs été précipitamment rappelés. À Baïkonour, en Russie, des satellites OneWeb sont de leur côté retenus à terre. Un rover européen prévu pour se poser sur Mars a vu son voyage reporté sine die, s'il est toutefois encore question du programme conjoint entre l'Agence spatiale européenne et Roscosmos. La mission ExoMars va très probablement être annulée.
Merci Claire, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le prochain journal. Il est bientôt 7h10, les marchés financiers. On retrouve Aude Kersulec en direct du siège d'Euronext à La Défense. Aude, hier on a rompu une série de 3 clôtures positives à Paris.
Et oui, avec une baisse de 0,4% à 6200 points. Prudence des investisseurs sur plusieurs points. Alors, il y a eu l'effet Walmart aux États-Unis qui a entraîné tout le secteur de la distribution vers le bas avec son avertissement sur résultats. Walmart perd en lui plus de 7,6%. Amazon a perdu plus de 4%, même si en termes de résultats, notamment, il y en a eu beaucoup hier du côté des États-Unis, Coca-Cola et McDonald's, ça s'est bien passé pour eux. Et dans la tech aussi, alors ça c'était après bourse, mais pour Microsoft et Alphabet, eh bien, on réagit pour l'instant après bourse assez bien à la publication des résultats. Alors il y a eu aussi hier cette prévision funeste du FMI, vous en avez parlé, une récession, un risque de récession mondiale qui a largement occupé nos esprits, en plus de cette préoccupation sur les livraisons de gaz russes qui s'amoindrissent via Nord Stream 1. Et ce matin, eh bien, en amont de la Fed, on continue d'avoir des indices qui ne savent pas trop comment s'orienter. Si on regarde du côté de l'Asie, on a le Nikkei qui est légèrement à la hausse, en 0,3%, mais Hong Kong qui baisse de moins 1,5%. Voilà, ça devrait être le cas aussi en Europe, une ouverture autour de l'équilibre à 9h.
Et du côté de l'agenda, il faudra évidemment se mettre à l'heure américaine aujourd'hui.
Et oui, à 20h, Jérôme Powell va délivrer les investisseurs en dévoilant sa hausse de taux 75 ou 100 points de base. Pour l'instant, c'est le 75 points de base qui est largement privilégié par une grande majorité des investisseurs. Donc on saura ça à 20h avant sa conférence de presse. Et puis on aura aussi du côté des États-Unis les ventes automobiles au mois de juin, les commandes de biens durables ou encore les stocks de pétrole. En Europe, ce matin à 8h, l'indice JFK du moral des consommateurs en Allemagne. À 10h, la confiance des ménages en France. Et puis, la longue série de résultats du jour. D'abord, sur le CAC 40, on aura Airbus, Carrefour, Danone, Kering ce soir. Saint-Gobain, Téléperformance, Worldline. Et puis, sur l'indice large Atos, c'est Elior, Elis, Euraseo, Eramet, Fnac, Darty, Nexans et Vallourec. Et puis, ailleurs en Europe, GSK, Lloyds, Moncler, Deutsche Bank ou encore Mercedes. Et puis aux États-Unis, grosse journée de publication aussi avec Boeing, Ford ou Meta qui sont parmi les plus attendus.
Ouais, toutes les entreprises se dépêchent de publier avant de partir en vacances. Comment se comporte le dollar ce matin, Aude, alors que vous l'avez dit, la Fed va annoncer sans doute un tour de vis monétaire historique?
Eh bien oui, on reprend de la vigueur ces dernières heures. Alors c'est vrai que les hausses de taux directeurs en général, ça crédibilise toujours une monnaie et c'est le cas du dollar. Ça a été le cas les 3 autres fois où la Fed a relevé ses taux, mais aussi parce que dans la paire euro-dollar, on a l'euro qui s'est largement affaibli ces dernières heures avec cette perspective de coupure de gaz russe et crainte. Donc on a un euro qui vaut ce matin 1,0147.
Merci beaucoup. Aude Kersulet, qu'on se retrouve juste après le journal de 7h30. On parlera comme chaque matin des crypto-monnaies. À 2 ans du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, vous le savez, tout au long de cette semaine, BFM Business et RMC Découverte vous emmènent dans les coulisses de l'organisation. Ce matin, direction Saint-Denis, au nord de Paris, là où sera installé le village des athlètes olympiques. Léo Dumas.
40 grues, 1800 ouvriers mobilisés chaque jour. Le plus gros chantier en lien avec les Jeux Olympiques bat son plein ici à Saint-Denis, c'est celui du village des athlètes. Alors à 2 ans du coup d'envoi des Jeux, on est venu pour faire le point et voir si tout sera finalisé comme espéré.
C'est sur 52 hectares que s'étale le plus gros chantier de France. Établi sur les 3 communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis, jusqu'à 20 000 athlètes olympiques et paralympiques seront accueillis ici pour le plus gros événement sportif du monde. C'est la Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, qui supervise le projet du village des athlètes. Elle doit ici faire sortir de terre logements, espaces de restauration et salles d'entraînement avant 2024. Un vrai défi, nous explique le directeur général de la Solideo, Philippe Rosier.
C'est à la fois une énorme contrainte, mais c'est un formidable accélérateur et c'est un effet de mobilisation. Et donc on arrive à être à la fois très ambitieux, sobre, aussi bien sur l'environnement, mais aussi sur les budgets. Et en fait, tout ça concentre et la prise de décision, en fait, est très rapide. Et donc c'est ça aussi qui permet d'avancer. Et dans une opération normale, ce que je vous disais, ce qu'on va faire en 6 ans, dans la vie normale, c'est entre 12 et 18 ans.
Le défi du temps, mais pas seulement, l'inflation frappe particulièrement le secteur du bâtiment. Mais sans la prendre en compte, la Solideo assure tenir son budget en euros 2016, 3,8 milliards, dont 40% de subventions publiques. Et avec les questions RSE, le cahier des charges est énorme. Et surtout, 2 semaines après les Jeux Olympiques se tiendront les compétitions paralympiques. Dans les espaces publics comme dans les bâtiments du village, les questions d'accessibilité sont cruciales, rappelle Henri Spech, le directeur du projet.
Un exemple très simple, la question de la pente dans les espaces publics qui ont fait l'objet d'ajustements, de réglages dès l'automne 2018, et puis une déclinaison dans les logements avec, je veux dire, un souci du détail, et je pense notamment à l'accessibilité des salles de bain sur lequel il y a un travail extrêmement pointu qui est fait.
Après les Jeux, le village connaîtra une seconde vie, sa plus importante. Sa construction a d'ailleurs été pensée pour son héritage, nous explique Henri Spech.
La réflexion a d'abord porté sur un quartier durable va ouvrir ses portes à de nouveaux habitants à partir de 2025. Et puis le temps, des Jeux s'est adapté à la façon de ce quartier qui battra son plein en 2025.
Quelques transformations seront nécessaires. Les cuisines inutiles dans les logements pendant les compétitions remplaceront par exemple des salles de bain avant que 6000 habitants et autant de salariés prennent leur quartier dès l'été 2025.
Et demain, on vous fera découvrir toute la logistique autour de l'alimentation et de la restauration des 15 000 athlètes olympiques. C'est un véritable chantier, nous expliquera Léo Dumas. Il est 7h16.
En télé, radio et digital. Good morning business.
Le classement annuel des éditeurs français de logiciels, il confirme la croissance du marché pour la 16e année consécutive, avec toutefois une rentabilité qui est en train de se dégrader, on verra pourquoi. On va en parler avec Bernard-Louis Roch, cofondateur et directeur général de Truffle Capital. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous. Vous venez de publier le classement Truffle 100 sur les 3 premières marches du podium, 3 poids lourds français des logiciels, Dassault Systèmes, Soprasteria et Cegid, donc qui se hissent à la 3e position. On va peut-être d'abord rappeler le principe de ce palmarès et surtout les critères de classement des entreprises.
Bien sûr. Le Truffle 100 s'appelle Truffle 100 parce qu'il a été créé par Truffle Capital, une entreprise que j'ai cofondée avec mon associé Dr Pouletti il y a maintenant un peu plus de 20 ans. À l'origine, le marché du software était un marché qu'on adressait chez Truffle. Nous sommes des investisseurs en capital risque dans les sociétés de technologie que nous finançons pour en faire des champions nationaux. Et le marché du software n'était pas bien quantifié. Nous avons donc souhaité le quantifier, c'est de la recherche interne. Et cette recherche interne, je l'ai divulguée lors d'une conférence, et elle a été reprise abondamment par la presse. Depuis, c'est devenu un rendez-vous annuel, le rendez-vous de référence pour l'industrie du logiciel, et on collecte beaucoup d'informations sur les 100 principaux éditeurs. Et je dois souligner que le travail est fait avec le même partenaire depuis le début, la société Technologie, qui est justement spécialisée dans les études sur le software.
Quels sont les principaux enseignements de ce palmarès 2022? Je le disais en introduction, c'est un secteur qui est toujours en croissance.
Absolument. Je dirais que si on fait un résumé de tous les interviews annuelles, on pourrait quasiment reprendre le même, puisque quel que soit le contexte économique, là on parle de récession aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout le cas pour le domaine du software. On est dans une belle croissance, une très belle croissance. Depuis que nous faisons ce palmarès, donc depuis 16 ans, c'est la deuxième plus belle croissance. Donc on est quand même sur une dynamique très forte.
Ouais.
Et nous n'avons eu qu'une seule année de décroissance qui est due à un rachat. Donc c'est une très belle industrie, très résiliente, qui ne cesse de progresser. Et on parle quand même de croissance conséquente.
Avec toutefois une érosion de la rentabilité dans ce secteur, pour quelle raison ? Est-ce que c'est la concurrence qui tire les marges vers le bas ?
C'est vrai, vous avez raison, 9,1% de taux de rentabilité. Alors c'est quand même une rentabilité, on n'est pas dans une industrie qui perd de l'argent. Au contraire, et c'est pas mal, 9,1%. Mais c'est en diminution par rapport à l'an dernier. Toutefois, on peut rappeler qu'il y a quelques années, on était à 4%. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'industrie du software investit massivement. Chaque année, elle se renouvelle. On ne construit pas un logiciel pour ensuite le laisser vivre sa vie sans que chaque année, on doive le renouveler. Et c'est précisément ce qui se passe avec le SaaS, notamment, le Software as a Service, qui est une...
Par abonnement.
Par abonnement sur le cloud et qui nécessite une transformation de forts investissements, ce que chacun des éditeurs aujourd'hui a fait.
Sur la scène mondiale, comment se positionnent les éditeurs français de logiciels ? Est-ce qu'il y a un savoir-faire connu et reconnu au-delà des frontières françaises ?
Oui, les Français ne sont pas les plus gros dans le monde dans le software, c'est les Américains les plus gros, mais nous avons un savoir-faire qui est reconnu, notamment dans les domaines du logiciel technique.
Vous avez Dassault Systèmes, évidemment, plus d'un tiers du chiffre d'affaires dans ce classement.
Absolument, les logiciels techniques, tout ce qui est automatisation de processus aussi, on a une bonne réputation, et les éditeurs de logiciels français sont tous, ou quasiment tous, exportateurs.
Est-ce que l'année a été active en termes d'opérations financières, je pense au rachat, aux fusions-acquisitions ?
Pas particulièrement. Il y a un flot annuel de rachats et d'opérations de fusion-acquisition. Ce n'était pas une très très grosse année. Mais ce que l'on peut constater depuis que nous faisons ce palmarès, on fait le décompte des opérations, il y a 43 sociétés sur les 100 premières qui ont été rachetées. Donc vous n'avez que 57 des sociétés qui n'ont pas été rachetées parmi le top 100.
Alors vous l'avez dit, Truffle, c'est une société d'investissement. On va parler du financement de ces entreprises. Est-ce qu'elles ont toujours aussi facilement accès au financement ?
Ça, c'est une vrai particularité, sujet. Un vrai sujet. C'est un ovni, l'industrie du logiciel, puisqu'on parle beaucoup des start-up. Le logiciel n'est pas considéré comme un domaine de start-up parce que c'est une industrie qui a 30 ans ou 35 ans et puis elle est un peu plus traditionnelle. Mais malgré tout, il y a deux particularités très très fortes. La première, nous on fait du capital risque chez Truffle Capital. Eh bien, 78% des éditeurs ne sont pas financés par le capital risque. Alors c'est plutôt sympathique pour nous, ça fait un terrain de chasse important, mais c'est très étonnant, c'est très atypique. Et le deuxième point, c'est la bourse. La bourse ne joue pas aujourd'hui un rôle moteur dans le développement de l'industrie du logiciel. Il n'y a plus que 20 éditeurs cotés. On était à 33.
En 2008.
En 2008, exactement. Donc on voit quand même qu'il y a une forte érosion et une faible attractivité de la bourse pour les éditeurs.
Est-ce que la remontée des taux va compliquer l'accès au financement pour ce secteur ?
La remontée des taux complique surtout le financement des acteurs qui ont besoin d'emprunter massivement pour se développer. Ce n'est pas nécessairement le cas des éditeurs de logiciels. Évidemment, ça va renchérir le coût de l'accès à l'argent, c'est évident, mais ça reste marginal. L'inflation va jouer un rôle aussi, parce que les salaires vont probablement augmenter, tout va augmenter, mais contrairement à d'autres industries, il n'y a pas de coût d'achat de matières premières. Donc on est plutôt sur une industrie qui devrait bénéficier parce que les prix de vente des éditeurs vont aussi augmenter, ils vont suivre l'inflation.
Merci beaucoup Bernard-Louis Roch d'être venu en plateau ce matin, cofondateur et directeur général de Truffle Capital. On marque une pause et on continuera de parler du secteur informatique juste après avec Benaouda Abdedaïm. Le gouvernement indien s'interroge sur la fuite des cerveaux dans le secteur informatique. On verra pourquoi et quelles mesures vont être prises avec Benaouda.
Good morning business, le monde qui bouge.
C'est un sujet récurrent depuis une quinzaine d'années. Le gouvernement indien s'interroge sur la fuite des cerveaux dans le secteur informatique. De nombreux dirigeants de groupes américains dans le secteur de la tech ont en effet été formés en Inde. Explication avec Benaouda Abdedaïm.
En décembre dernier, une entreprise technologique de renom aux États-Unis, une de plus, s'est choisie un PDG d'origine indienne. Et de nouveau, l'Inde s'est interrogée. Est-ce révélateur d'une inexorable fuite des cerveaux? Anand Esrawan est diplômé d'ingénierie informatique de l'Université de Bombay. Il est parti compléter sa formation aux États-Unis, dans celle du Missouri. Il a poursuivi une brillante carrière aux États-Unis et il a pris les rênes de Veeam. Veeam, c'est une référence en matière de protection des données dans le cloud. Cette nomination a forcément moins suscité l'attention que celle de Sundar Pichai à la tête de la maison mère de Google, de Satya Nadella chez Microsoft, Arvind Krishna chez IBM ou encore Parag Agrawal pour diriger Twitter. Comme une routine, une évidence même, un quotidien de New Delhi a alors écrit un autre PDG d'origine indienne. Mais une fois encore, cela va en Inde avec ce questionnement fondamental. Et si ce profil formé aux frais du contribuable indien avait pu contribuer à la prospérité de son pays natal? Pourtant, ce n'est pas forcément vécu comme l'expression d'un échec national. Le fondateur d'Ola Cabs, l'application majeure de transport basée à Bangalore, juge que les Indiens deviennent PDG d'entreprises américaines parce que les Indiens sont bons et non parce que les bons Indiens quittent l'Inde. Et d'ailleurs, d'après lui, les meilleurs talents ne quittent plus le pays, mais s'y construisent, s'y bâtissent. Une autre personnalité parmi les plus en vue de l'entrepreneuriat technologique indien estime tout autant qu'il s'agit d'une affaire de génération. La fuite des cerveaux, ce serait une histoire d'il y a 10 ans, plus maintenant, où le capital risque indien finance sur place, aide à rechercher les investisseurs et à se connecter en fait aux distributeurs mondiaux pour le lancement de tel ou tel produit. Cette sophistication paraît incontestable, mais cela ne remplace toujours pas l'arrière-plan. Un capital risqueur parti travailler aux États-Unis a expliqué à un journal du sud de l'Inde que les technophiles indiens qui ont émigré lui citent non seulement une quête de qualité de vie, mais aussi d'indépendance et de liberté personnelle. Dans une tribune, un haut fonctionnaire du ministère des Finances à Delhi a d'ailleurs invité ses compatriotes qui déplorent un exode à comprendre qu'une décision d'étudier puis de travailler ailleurs relève du droit souverain de choisir de chaque individu, sans que tout soit forcément figé. Selon lui, personne ne se plaint quand un docteur indien formé grâce à une bourse américaine revient créer de la richesse en Inde. Appelons-nous cela, écrit-il, une perte pour les États-Unis ou bien un gain de cerveau pour l'Inde.
Le monde qui bouge avec Benaouda Abdedaïm. Dans un instant, le journal, au sommaire de la prochaine demi-heure. À 7h45, je recevrai Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred, pour commenter les résultats de l'entreprise. Et puis à 7h50, Emmanuel Lechypre nous parlera des prix de l'électricité, les prix à terme. Ils sont en train d'exploser pour l'hiver prochain. Ça pose évidemment une question. Comment est-ce que la France va réussir à maintenir son bouclier tarifaire alors que les prix d'achat, eux, sont en train d'exploser? Réponse donc dans une vingtaine de minutes. 7h30. Et on fait un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent.
Bonjour, et dans cette semaine de résultats, c'est Danone qui publie à l'instant ses résultats semestriels. Et c'est plutôt bon, Pauline Tadevin.
Oui, alors Danone publie un chiffre d'affaires net en hausse pour le premier semestre, plus 7,4% en données comparables, plus 12,6% en données publiées, un peu plus de 13 millions d'euros. Les ventes progressent au deuxième trimestre de près de 8% en données comparables, portées, nous dit Danone, par un effet prix de près de 7% et un effet volume mix de près de 1%. Et ce que souligne la direction, c'est qu'elle relève ses prévisions de croissance pour cette année, entre 5 et 6% en données comparables. Danone qui s'attend à une marge opérationnelle courante supérieure à 12%. Alors le groupe progresse partout dans le monde, même en Chine, où il croît de 8% en données comparables sur un an, de 3% au deuxième trimestre sur un an aussi, porté par la nutrition spécialisée, notamment le lait pour bébé. On rappelle d'ailleurs que Danone a investi récemment dans une entreprise locale pour renforcer sa production de lait infantile en Chine. Danone souligne aussi sa progression en Amérique du Nord au deuxième trimestre, un peu plus de 9% sur un an en comparable, notamment là-bas grâce aux yaourts et aux produits d'origine végétale. Alors forcément, la hausse des coûts des matières premières, la hausse des coûts des intrants pèse sur Danone. La marge opérationnelle courante est en baisse, mais Danone explique que c'est partiellement compensé par la hausse des prix et aussi par la hausse des volumes. Il bénéficie aussi des taux de change, des résultats en hausse au final pour Danone, mais sa direction reste sur la même ligne que celle tenue depuis l'arrivée du nouveau patron Antoine de Saint-Affrique. En résumé, c'est bien, mais il faut encore progresser.
Merci beaucoup Pauline Tadevin. D'autres résultats publiés ce matin, Atos notamment qui est dans le rouge, Claire.
Oui, résultat d'exploitation négatif, moins de 198 millions au premier semestre. Mais le groupe de cybersécurité confirme ses objectifs annuels. Il assure avoir une dynamique commerciale en amélioration. Atos précise que le financement de son plan de sécurisation a été sécurisé avec succès.
Et puis des résultats également dans le secteur bancaire.
Oui, Crédit Suisse accuse des pertes plus lourdes que prévues à 1,6 milliard d'euros. La banque, fragilisée par des scandales à répétition, avait déjà émis un avertissement le mois dernier sur ses résultats. Un avertissement aussi en raison du conflit ukrainien et de ses conséquences sur les marchés financiers. Mais les pertes sont plus lourdes que prévues.
Les géants de la tech américaine publient également leurs résultats.
Hier, Alphabet, la maison mère de Google et Microsoft, qui ont donc publié des résultats en demi-teinte. Alphabet voit son bénéfice net baisser de 13% sur un an, touché par l'effet de change défavorable. Et Microsoft affiche, lui, un chiffre d'affaires inférieur aux attentes. Le dollar fort pèse, mais aussi, surtout, les ventes de PC et de jeux vidéo qui ralentissent. À New York, la correspondante de BFM Business.
Oui, des résultats un peu décevants pour Microsoft par rapport aux prédictions. Les analystes s'attendaient à 2,29 $ de bénéfices par action pour ce deuxième trimestre. Ils ne seront finalement que de 2,23 $. Microsoft est pénalisé par la hausse du dollar, par le ralentissement des ventes de PC et puis par la baisse des recettes publicitaires. Bilan un peu meilleur pour Alphabet, tout simplement parce que les analystes s'attendaient à pire. La maison mère de YouTube et de Google termine en fait ce trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse grâce principalement à une résilience des recettes publicitaires qui, malgré l'inflation qui grignote les budgets marketing, et puis grâce aussi à de bons résultats dans ses activités de cloud, d'informatique à distance. En tout cas, après les résultats catastrophiques de Snapchat la semaine dernière, la croissance pub de Google devrait redonner un peu de confiance au marché ainsi qu'au milieu de la tech.
Voilà, Carrie Noten, depuis New York pour BFM Business.
En France, Dassault Systèmes a relevé hier ses objectifs financiers pour 2022.
Avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en progression de 16% sur un an, l'éditeur de logiciels a dépassé les attentes au deuxième trimestre. Moteur de sa croissance, l'activité industrielle qui résiste malgré les difficultés liées au conflit en Ukraine et aux confinements successifs en Chine. Le directeur général de Dassault Systèmes, Bernard Charles, était l'invité de BFM Business hier soir. Il a donné les raisons de son succès.
À la fois du point de vue géographique, du point de vue couverture des industries, comme je vous l'indiquais, il y a une croissance à deux chiffres à peu près dans les industries les plus importantes pour nous. Comme vous savez, la santé est un secteur devenu très stratégique pour Dassault Systèmes, aussi important que l'aéronautique, par exemple, et où nous avons une croissance élevée, puisqu'elle est autour de 17% sur la première moitié de l'année, et une très bonne visibilité. Et je rappelle que ce chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires de souscription, c'est-à-dire avec une visibilité long terme.
La fusion entre TF1 et M6 a du plomb dans l'aile, Claire.
Oui, un premier rapport de l'autorité de la concurrence n'est pas favorable au projet. C'est ce qu'annonce le dirigeant d'M6, Nicolas de Taverneau. Le rapport pointe des problèmes de concurrence significatifs, notamment dans la publicité télé, sans préjuger de la décision finale attendue en octobre. Toutefois, les dirigeants des deux chaînes avertissent. Les remèdes préconisés pourraient enlever toute pertinence au projet de rapprochement qui n'aurait donc plus lieu d'être.
Le succès de l'auto-entreprise ne se dément pas en France.
L'URSSAF publie aujourd'hui son bilan 2021 de l'évolution de ce dispositif. Et les auto-entrepreneurs sont toujours plus nombreux, Raphaël Couder.
Oui, le dispositif continue d'attirer l'URSSAF, dénombré à la fin de l'année dernière près de 2,3 millions d'auto-entrepreneurs, soit 300 000 de plus qu'un an plus tôt, une hausse donc de 15% en un an qui s'explique principalement par la hausse des immatriculations, 700 000 créations de nouvelles auto-entreprises l'an dernier et sur la même période, environ 400 000 radiations, des radiations notamment pour absence de chiffre d'affaires. Autre élément intéressant de ce bilan, le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs est toujours en forte progression, plus 26,5% au quatrième trimestre de l'année dernière. On franchit la barre des 6 milliards d'euros de ventes pour ce type d'entreprise, c'est-à-dire le plus haut niveau jamais atteint depuis la création de ce dispositif. Les auto-entrepreneurs sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à déclarer un chiffre d'affaires, 18% de plus qu'il y a un an. Les secteurs d'activité les plus dynamiques, ce sont ceux comme vous l'imaginez, qui ont été le plus touchés par les restrictions sanitaires. Vous les voyez, le nombre d'auto-entrepreneurs économiquement actifs est en hausse de 38% dans les arts et spectacles et de 35% dans les activités sportives.
Merci Raphaël Gouter. Enfin, on en sait un peu plus sur le projet de réforme de l'assurance chômage du gouvernement. Quand ça va bien, on durcit les règles. Quand ça va mal, on les assouplit. Résume Olivier Dussopt dans les colonnes du Parisien ce matin. Parmi les pistes, envisager la durée de l'indemnisation avec une dégressivité des allocations. Et en ce qui concerne le RSA, il y aura bien 15 à 20 heures d'activité demandée qui pourront être soit des stages, des formations, des immersions en entreprise, détaille le ministre du Travail. Les discussions sont prévues à la rentrée avec les partenaires sociaux.
Merci Claire. On se retrouve à 8h pour le prochain journal à 7h38 BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
Aude Kersulek en direct d'Euronext. Aude, les crypto-monnaies sont stables ce matin sur les marchés.
Eh oui, c'est comme les marchés actions, il ne se passe pas grand-chose. Les investisseurs sont dans l'attente, en mode risk-off, en attendant la décision de politique monétaire américaine, cette hausse de taux. On a aussi beaucoup moins de volume depuis quelques jours. Beaucoup d'opérateurs sont absents. Les volumes sont largement en baisse. Alors, on attend de voir ce qui va se passer du côté de la Fed. Et comment les crypto-monnaies vont réagir. Le Bitcoin vaut ce matin 21 233 $. L'Ether, 1 455 $.
La plateforme Coinbase a des ennuis avec la SEC, le régulateur boursier américain.
Et oui, le gendarme boursier s'intéresse aux crypto-actifs proposés sur la plateforme d'échange Coinbase, une des principales plateformes américaines, qui a rajouté ces derniers temps beaucoup de nouvelles crypto-monnaies et qui ne sont pas enregistrés comme des instruments financiers, comme des securities, comme on dit aux États-Unis, comme le sont des actions, des obligations ou encore des options, et qui ne tombent donc pas sous les mêmes règles. En clair, Coinbase est depuis un moment borderline sur le sujet, selon l'autorité américaine. Alors Coinbase ne semble pas décidée à se laisser faire. Elle a répondu sur son blog et d'un ton vindicatif, je cite, qu'il ne listait pas de titres financiers fin de l'histoire. Alors la SEC, elle semble avoir fait de la régulation du secteur crypto une de ses priorités. Elle devra faire avec des acteurs pas forcément coopérants. En attendant, eh bien, ça a été chahuté hier sur l'action Coinbase au Nasdaq, puisqu'elle a perdu plus de 20%.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. On se retrouve juste après le journal de 8h. On verra comment se dessine l'ouverture de la séance à la Bourse de Paris. Il est 7h40. Comme tous les matins, on répond à une question que vous nous avez adressée. Quelle est la procédure pour une entreprise qui souhaite embaucher un travailleur étranger? Sachez que les règles ont été modifiées en début d'année. Les explications de Lorraine Goumeau.
Good morning business, BFM Business avec vous.
Notre question ce matin, elle nous vient d'un auditeur qui nous écrit « Je suis titulaire d'un permis de séjour. Je souhaite travailler dans une entreprise en région parisienne qui est tout à fait d'accord pour me recruter. Est-ce à moi de faire les formulaires, les formalités pour obtenir une autorisation de travail ?» Alors sachez que la procédure a été profondément remaniée depuis le 1er janvier. C'est désormais à l'employeur d'effectuer toutes les formalités pour obtenir une autorisation de travailleur pour un ou une salariée étrangère. C'est une procédure spécifique qui doit être respectée, c'est ce que nous dit notre avocat Nicolas Mancret. Les services de la main-d'œuvre étrangère du ministère du Travail, le MOE, ont été supprimés. Ce sont désormais les services des préfectures, qui dépendent donc du ministère de l'Intérieur, qui ont la charge d'instruire toutes les demandes d'autorisation des travailleurs salariés, d'autorisation de travail des salariés étrangers. Il y a 7 plateformes en tout, je vous en cite quelques-unes, une à Béthune, une à Tulle, une à Clermont-Ferrand, une en Guyane aussi, qui viennent eh bien, instruire effectivement toutes les demandes d'autorisation de travail.
Lorraine Goumeau, BFM Business, avec vous. À suivre dans un instant, Bertrand Dumazy, le directeur général d'Edenred, sera avec nous. On parlera des bénéfices de l'entreprise, 27,5% de hausse au premier semestre. L'entreprise qui s'attend désormais à un bénéfice record pour 2022, on verra pourquoi juste après la pause.
Télé, radio et digital. Good morning business.
Edenred prévoit un bénéfice record pour 2022. Le spécialiste des services prépayés, l'éditeur des tickets restaurants, bénéficie entre autres de la hausse de l'inflation. On verra pourquoi. Ça permet aux entreprises d'augmenter la valeur nominale des tickets resto. Sur le premier semestre, l'entreprise Edenred a dégagé un bénéfice net en progression de 27,5% pour un chiffre d'affaires, lui, qui a augmenté de quasiment 22%. Voilà pour les chiffres. On va les mettre en perspective avec Bertrand Dumazy, directeur général de l'entreprise. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va expliquer le mécanisme. L'inflation, ça rend vos produits plus attractifs.
Oui, l'inflation rend nos produits plus attractifs puisque nous proposons des portefeuilles d'avantages aux salariés partout dans le monde. On est présent dans 46 pays et les employeurs cherchent à redonner du pouvoir d'achat à leurs salariés et redécouvrent en fait les avantages aux salariés, qui est une bonne manière à la fois de rendre du pouvoir d'achat mais aussi de retenir ses salariés, puisque l'inflation est un enjeu mais retenir ses salariés en est un autre. Dans l'économie digitale mondiale, vous avez 1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus, et donc la grande bataille des chefs d'entreprise, c'est aussi attirer et retenir les talents. Les avantages aux salariés que nous proposons est un bon moyen de le faire.
Vous avez l'impression que les salariés sont de plus en plus demandeurs de ce type de service?
Alors en tout cas, on le voit dans nos chiffres, c'est-à-dire l'année 2021 était une année croissance record. Comme vous le savez, les records sont faits pour être battus. 2022 marque une croissance encore plus forte, ce qui est la concrétisation de l'attractivité des produits et donc la nécessité de rendre du pouvoir d'achat.
Une parenthèse peut-être sur la remontée des taux d'intérêt. Dans quelle mesure est-ce que vous en bénéficiez?
Alors nous, on en bénéficie puisqu'on a la chance d'avoir une trésorerie positive. Donc cette trésorerie est mise au travail sur les marchés. Et donc des taux d'intérêt positifs nous génèrent un revenu financier. Ce qui est un juste retour des choses puisque je sors de 6 années où j'allais voir des banquiers avec ma trésorerie. Et ils me disaient, on va la prendre mais tu vas nous payer pour qu'on la prenne. C'est le principe des taux d'intérêt négatifs.
Mais on revient dans une configuration normale.
Oui. On revient dans une configuration normale.
Alors, Edenred, évidemment, ce n'est pas uniquement les tickets resto, mais on vous connaît surtout pour ça. Pendant la crise sanitaire, les utilisateurs de titres restaurants pouvaient dépenser jusqu'à 38 euros par jour dans les restaurants. La mesure a remporté un franc succès, hein, si on interroge les restaurateurs. Le plafond a été ramené à 19 euros, c'était son niveau d'avant-crise. Bercy réfléchit aujourd'hui à la possibilité de relever ce plafond, on parle de 25 euros.
Oui, je pense que Bercy a réfléchi, voire même a décidé, puisque c'est passé vendredi dernier à l'Assemblée nationale, a priori le plafond remonterait à 25 euros.
Voilà, il faudra quand même que ce soit voté définitivement et que ça rentre en application. Est-ce qu'il faut permettre l'utilisation le week-end? Là encore, c'est quelque chose qui avait été assoupli.
Alors moi, je suis contre l'utilisation des tickets restaurants le week-end, sauf si l'emploi nécessite de travailler le week-end. Il faut se souvenir que ce programme, c'est un programme social d'avantage aux salariés, qui est l'alimentation au travail. Et donc, il doit être utilisé pour l'alimentation au travail. Si on l'utilise dans d'autres cadres, ça dénature le programme et ça le fragilise.
Et il pourrait perdre son avantage fiscal.
Il pourrait perdre son avantage fiscal, mais surtout, il n'a pas été fait pour ça. Donc, ayons la discipline, comme partout dans le monde, d'utiliser ce programme en ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire l'alimentation saine, équilibrée au travail.
Edenred, c'est beaucoup plus que les tickets resto. Comment se porte aujourd'hui le marché des services prépayés? Vous avez beaucoup investi pour vous développer.
Oui, alors nos investissements sont massifs. Hein. On dépense chaque année, par exemple, en innovation technologique, plus de 7% de notre chiffre d'affaires. On a continué à accroître nos investissements pendant le Covid. Et cette année, ce sera une enveloppe d'environ 400 millions d'euros juste pour la technologie. Pourquoi? Pour développer de nouveaux services, puisque Edenred est désormais une plateforme mondiale qui connecte 50 millions d'utilisateurs avec 2 millions de marchands. Notre objectif, c'est de proposer de plus en plus de services. Je vous donne un exemple. En France, on a désormais derrière la super app Edenred, My Edenred sur votre téléphone portable.
Je l'ai.
9 services à votre disposition. Donc, certes du ticket restaurant, mais aussi du ticket cadeau, du ticket mobilité, du ticket télétravail. Votre CE digital est géré globalement par nous. Et ça redonne à peu près 5000 euros de pouvoir d'achat aux salariés, facilement utilisables.
Quelles sont les tendances du moment, les services qu'on vous demande le plus?
Alors, le ticket télétravail et le ticket de mobilité sont en forte croissance partout dans le monde. Pourquoi? Parce que la mobilité est de plus en plus chère et donc être aidé pour retourner au travail dans un contexte de télétravail fonctionne très bien au travers du monde. Et le télétravail qui s'est durablement installé, ça coûte de l'argent aux salariés qui s'installent chez eux et donc on a aussi une grosse demande. Mais la mobilité professionnelle est peut-être la ligne de produit qui est la plus en croissance chez nous, et notamment avec des programmes qu'on a appelés Move for Good, qui permettent d'optimiser sa dépense de mobilité professionnelle et d'avoir une consommation plus raisonnable.
Vous êtes un groupe mondial, j'imagine que les tendances ne sont pas forcément les mêmes en fonction des zones géographiques.
Oui, alors on est un groupe mondial puisqu'on est présent dans 45 pays. Et en fait, notre croissance est très harmonieuse puisque toutes les lignes de produits et dans tous les pays, c'est en croissance à deux chiffres. Ça veut dire que les produits que nous mettons sur le marché via cette plateforme sont des produits très universels et répondent aux besoins des salariés partout dans le monde.
Où est-ce qu'on en est de la dématérialisation? Je vais vous faire une confidence. Je vois mon voisin payer avec des tickets resto papier.
Oui, alors en fait, partout dans le monde, nous sommes en digital. 100% des produits d'Edenred sont digitaux et accessibles via votre téléphone portable. Il reste quelques pays irréductibles. La France, qui n'est digitale qu'à 50%. Je rappelle que pour nous, la France ne représente que 15% de notre chiffre d'affaires. Le dernier papier que nous avons émis en Roumanie, c'était il y a un an, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc la France est un peu derrière en termes de digitalisation. Vivement que la France soit 100% digitale.
Merci beaucoup Bertrand Dumazy, directeur général d'Edenred. Je rappelle que l'entreprise prévoit des bénéfices records pour 2022 après une progression de 27,5% pour son résultat net sur le premier semestre 2022. 7h51, Emmanuel Lechypre pour l'édito. Bonjour.
Good morning business. L'édito.
Les prix de l'électricité sont en train d'exploser pour l'hiver prochain. C'est ce que nous dit la Commission de régulation de l'énergie. On va en parler avec vous, Emmanuel. La CRE, on l'appelle comme ça, tire la sonnette d'alarme. Les prix explosent. Ça sera l'hiver prochain.
Oui, alors en fait, on parle des prix sur le marché de gros, de l'électricité achetée pour l'hiver prochain. Songez que au mois de juin, par exemple, quand on achetait de l'électricité pour livraison cet hiver, on était à 500 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, donc on est fin juillet, on est passé à 800 euros à peu près le mégawattheure. Alors, c'est pas un doublement, mais presque. Pour donner un ordre de grandeur, au pic de décembre 2021, on était à 450 euros le mégawattheure. Donc, vous voyez la hausse que ça représente. Et à noter aussi, ce que ne manque pas de souligner la CRE, c'est que la hausse est beaucoup plus forte en France que dans les pays voisins.
Comment on explique cette envolée des prix?
Alors, il y a trois explications. La première, c'est effectivement la crainte d'un arrêt des livraisons de gaz russe avec toutes les perturbations que ça peut engendrer. On sait que la France est moins dépendante du gaz russe, mais bon, il y a des contraintes de solidarité au niveau européen qui font que ce sera aussi contraignant pour la France. La deuxième crainte, c'est des mauvaises nouvelles du côté de notre parc nucléaire. On a aujourd'hui une petite moitié du parc qui est à l'arrêt. On sait qu'il y a des centrales qui vont normalement recommencer à tourner pour l'hiver, mais comme on a eu pas mal de soucis techniques sur nos centrales ces derniers temps, il y a cette espèce de doute sur les risques de production française de nucléaire, donc risque de pénurie. Et comme on a des doutes aussi sur la capacité des importations à compenser finalement cette faiblesse de la production française, on voit qu'on a des prix qui deviennent effectivement extrêmement, extrêmement élevés.
Ça va être compliqué puisque le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire. Il a été instauré à l'automne 2021 et il doit, en théorie, se terminer cet hiver.
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le sujet consommateur, famille. Et là, effectivement, ça va être un sacré casse-tête pour le gouvernement. Il faut rappeler le principe du bouclier tarifaire. C'était on limite la hausse des prix de l'électricité et la facture à 4%, alors que normalement, sans ce bouclier, elle aurait été de 45%. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez un petit appartement, vous avez eu un surcoût d'électricité de 40 euros. Sans le bouclier, il aurait été de 350 euros. Si vous avez une maison, la hausse, elle a été de 80 euros à peu près, elle aurait été de 650 euros. Alors évidemment, tout ça, c'est l'État qui a payé jusqu'à maintenant, une quinzaine de milliards d'euros. Et donc, on voit bien que à la fin de l'année, quand est censé se terminer ce bouclier tarifaire, quel dispositif va être mis en place? La logique qui prévalait jusqu'à maintenant au gouvernement, c'était de dire, pour dépenser moins, on va cibler davantage les aides sur les populations les plus modestes. On voit que ça n'a pas été le cas finalement pour l'essence, puisqu'il y aura 30 centimes pour tout le monde à la rentrée. Là, qu'est-ce qui va se passer? On va manifestement, si les prix de l'électricité restent aussi élevés, il est impensable que le gouvernement supprime complètement le bouclier tarifaire. Donc ce qui est probable, c'est qu'on ait un nouveau bouclier tarifaire. Alors, sur une base un peu moins protectrice pour coûter un peu moins d'argent aux finances publiques. Et ça, ça profiterait à tous les Français. Et puis, sans doute, des dispositifs plus spécifiques.
Type chèque énergie.
Oui, par exemple, pour les ménages les plus modestes. Sachant que il y aura peut-être quand même, malgré ce qu'a dit Bruno Le Maire, parce que vous savez, il y a toujours, quand on gèle les prix d'électricité, ces fameux risques de rattrapage qu'il faut bien faire, hein, puisque c'est la loi qui y oblige. Bruno Le Maire a dit non, c'est l'État qui prendra tout en charge. La CRE dit, il faut qu'au 1er février 2023, on rehausse les tarifs pour compenser un petit peu la hausse des coûts. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis là-dedans, n'oublions pas non plus les entreprises, parce qu'on voit bien que effectivement, si les entreprises travaillent avec des coûts de l'électricité aussi élevés que ceux qu'on a aujourd'hui sur les marchés de gros, ça va poser beaucoup de problèmes en matière de financement, de trésorerie, et donc toutes les inquiétudes qu'on a sur la situation financière avec les effets en cascade sur sujet qu'on a déjà évoqué, le remboursement des PGE, etc. Donc c'est un facteur évidemment de fragilité non seulement des ménages, mais aussi des entreprises pour lesquelles il faudra sans doute prévoir quelque chose aussi.
Merci beaucoup, Emmanuel de Chypre. On vous retrouve dans une heure pour le débat avec Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose, et bien sûr tout au long de la semaine, aux commandes des experts à partir de 9h. À suivre la météo, juste après ce sera le journal avec Claire Sergent.
Télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est tout juste 8h à la une de l'actualité. Le FMI assombrit une nouvelle fois ses perspectives pour l'économie mondiale. Conséquence évidemment de l'inflation et de la guerre en Ukraine, le Fonds monétaire international anticipe désormais une croissance mondiale de 3,2% cette année et de 2,9% pour l'an prochain. En cas d'interruption des livraisons de gaz russe, les perspectives seraient encore plus négatives. On va y revenir en détail dans un instant. Les prix de l'électricité sont en train d'exploser pour l'hiver prochain. On en a parlé avec Emmanuel Le Chypre. Selon la Commission de régulation de l'énergie, les prix à terme ont augmenté très fortement, pratiquement doublé en l'espace de quelques semaines. La France est particulièrement touchée par cette envolée des tarifs. L'actualité entreprise dominée par les publications semestrielles. Malgré la dégradation de la conjoncture, beaucoup d'entreprises ont annoncé de solides résultats. Danone relève ses prévisions annuelles après un très bon deuxième trimestre. LVMH confirme une nouvelle fois sa bonne santé. Valeo, dans le secteur de l'équipement automobile, confirme sa résilience. Son directeur général Christophe Périlla sera mon invité tout à l'heure à 8h15. Et puis on vous parlera également ce matin de cette guerre froide qui se déroule à 400 km à peu près au-dessus de nos têtes. La Russie va stopper sa collaboration au sein de la Station Spatiale Internationale. Le divorce ne sera effectif qu'en 2024, mais il pourrait compromettre l'avenir de l'ISS. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, c'est le journal de Claire Sergent. Claire, on commence par ces nouvelles prévisions du Fonds monétaire international, le pessimisme qui domine et des perspectives qui s'assombrissent.
Oui, alors que la Fed se réunit aujourd'hui, Jérôme Powell doit annoncer une nouvelle hausse des taux. Elle devrait être de 0,75 point de base. L'enjeu, c'est d'éviter une récession aux États-Unis, car c'est bien ce risque qui menace l'économie américaine, mais aussi la zone euro. Pour le FMI, l'espoir est faible. Raphaël Couder, il faut se préparer à un ralentissement mondial.
Oui, effectivement, le PIB mondial devrait croître de 3,2% cette année. C'est 0,4 point de moins que ce que le FMI prévoyait jusqu'à présent. Le Fonds monétaire international estime que la croissance va ensuite ralentir à 2,9% l'an prochain. En cause, la guerre en Ukraine et la poussée inflationniste plus importante que prévu. Toutes les zones économiques sont touchées. Aux États-Unis, l'inflation atteint plus de 9% en juillet et elle pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Résultat, la croissance sera seulement de 1% l'an prochain et pour les prochains mois, la probabilité que le pays échappe à une récession est faible, estime le FMI. En Chine, c'est la stratégie zéro Covid qui freine fortement la croissance cette année. Elle s'effondrerait à 3,3% contre plus de 8% l'année dernière. Quant à l'Europe, le FMI estime abaisse également sa prévision de croissance de 0,2 points. Ce sera 2,6% de croissance croissance cette année et une quasi-stagnation du PIB. L'an prochain, c'est là encore l'effet de la guerre qui plombe le continent avec des conséquences sur l'activité qui s'observe en Allemagne, en France et en Espagne principalement.
Et en revanche, Raphaël, le FMI note que la Russie se sort mieux que prévu des sanctions internationales.
Oui, absolument. L'économie russe s'est moins contractée que prévu au deuxième trimestre. Les exportations de pétrole, mais aussi de produits non énergétiques, se maintiennent, ce qui permet d'atténuer les conséquences des sanctions occidentales. La demande intérieure fait également preuve de résilience, note le FMI, et l'affaiblissement du marché du travail n'est pas aussi important que ce que les analystes attendaient. Résultat, la croissance russe devrait se contracter de 6% en 2022. C'est un plongeon important, certes, mais finalement bien moins sévère que la baisse de 8,5% sur laquelle tablait le FMI dans ses précédentes prévisions.
Et Jérôme Powell prendra la parole demain à 14h30 à l'issue des discussions qui vont démarrer aujourd'hui. La Fed, qui a déjà décidé mi-juin d'une hausse record de ses taux directeurs, doit annoncer le rythme à suivre dans les prochains mois pour sortir les États-Unis de la spirale inflationniste.
C'est la saison des résultats d'entreprises, avalanche de publications ce matin, Claire.
Oui, Mercedes-Benz relève ses prévisions annuelles. Son bénéfice net a progressé au deuxième trimestre à 3,2 milliards d'euros malgré des ventes en baisse à cause des pénuries et des difficultés logistiques. Le groupe allemand mise désormais sur une marge et un bénéfice d'exploitation légèrement supérieur et c'est une meilleure rentabilité qui a permis au groupe de compenser la baisse de ses ventes. En France, l'entreprise de restauration Elior confirme ses objectifs annuels et revoit à la hausse ses ambitions pour 2024. Signe de la reprise pour le groupe, la croissance organique a progressé de plus de 20% par rapport aux 9 premiers mois de l'année dernière. Et puis Vallourec, le fabricant de tubes en acier français, affiche lui une perte nette de 415 millions d'euros au deuxième trimestre. Conséquence des provisions et des frais liés au plan social annoncé le 18 mai. 3000 emplois doivent être supprimés dans le monde, 320 en France. La croissance, en revanche, progresse par rapport à la même période l'année dernière, des résultats jugés conformes aux attentes selon le PDG de Vallourec.
Et j'ajoute Valeo qui confirme sa résilience face au ralentissement du marché automobile européen. Son directeur général, Christophe Périlla, sera mon invité dans une dizaine de minutes. Dans le secteur du luxe, LVMH a une nouvelle fois confirmé sa très bonne santé.
Ah oui, avec des résultats semestriels solides, des ventes qui sont en hausse, un bénéfice net qui lui aussi progresse par rapport à l'année dernière. LVMH poursuit sa forte croissance malgré le contexte international, l'inflation et malgré la Chine qui pèse, mais pas assez visiblement pour le faire flancher, Pauline Tadevin.
Oui, la Chine pèse. Hein. Les ventes ont baissé de 8% sur un an au deuxième trimestre en organique en Asie, hors Japon. Cette situation est douloureuse, painful, a répété plusieurs fois hier soir le directeur financier de LVMH qui adopte la stratégie, dit-il, du wait and see, persuadé que cela va repartir en Chine quand les restrictions sanitaires seront levées, mais ces difficultés en Chine sont compensées par des ventes qui progressent ailleurs dans le monde, en Europe et aux États-Unis notamment, où le groupe investit beaucoup. Pour l'instant, les hausses de prix qui ont été passées par les différentes maisons du groupe de 3 à 7, 8% en début d'année ne découragent pas les clients. Ce qui fait sa force, d'après LVMH, c'est un portefeuille diversifié et équilibré.
Toutes les activités progressent, hein, Pauline.
Ouais, tiré toujours par la mode et la maroquinerie qui réalise à elle seule plus de 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans la distribution sélective, DFS souffre en Asie, mais Sephora rebondit fortement. On note quand même le ralentissement global des ventes de parfums. Les vins et spiritueux progressent. En revanche, surtout le champagne. Le cognac s'est repris au deuxième trimestre après un ralentissement en début d'année dû à la Chine et aussi aux difficultés logistiques qui ont été rencontrées aux États-Unis au sujet des risques de récession aux États-Unis. Justement, le directeur financier de LVMH a eu cette phrase: on n'est pas des économistes, on fait du business. En résumé, le groupe progresse aux États-Unis et si la situation devait s'aggraver, eh bien, il s'adapterait. La direction de LVMH se dit confiante pour la suite, mais vigilante aussi. Elle adopte, comme l'a répété plusieurs fois son directeur financier, la wait and see attitude.
Merci beaucoup, Pauline Tadevin. Toujours dans le secteur du luxe, on connaîtra aujourd'hui les résultats de Kering, autre géant français du secteur. Dans le secteur de l'énergie, l'Allemagne, fortement exposée au gaz russe, se prépare à un véritable scénario noir pour l'hiver prochain.
Ah oui, la baisse drastique des livraisons depuis Moscou a déjà poussé Berlin à relancer le charbon. Eh bien, ça pourrait même être autour des centrales nucléaires dont on va repousser la fermeture. Étienne Henry.
Le nucléaire est de retour outre-Rhin. Très dépendante au gaz russe qui se raréfie semaine après semaine, l'Allemagne a remis sur le tapis la question de l'énergie nucléaire, en principe abandonnée à la fin de l'année. Le gouvernement a indiqué lundi qu'il trancherait dans les prochaines semaines. La décision repose sur les résultats des tests de sécurité sur les centrales. Les libéraux du FDP mettent la pression sur la coalition gouvernementale en réclamant une prolongation jusqu'au printemps 2024. Du côté des Verts et des sociaux-démocrates, le sujet n'est plus tabou et un changement de cap semble désormais possible, tant la situation énergétique est tendue outre-Rhin. Une position inimaginable avant la guerre en Ukraine, mais la flambée des coûts de l'énergie et la crainte d'une pénurie de gaz russe change radicalement la donne, 11 ans après la décision d'Angela Merkel d'engager le pays dans la sortie de l'atome.
Il y aurait comme un air de guerre froide au-dessus de nos têtes. Je vous le disais tout à l'heure en titre, la Russie décide de quitter l'ISS en représailles aux sanctions occidentales.
Ah oui, et c'est l'avenir même de la Station Spatiale Internationale qui est remis en question. Moscou partira après 2024, le temps de créer la station orbitale russe. L'industrie aérospatiale qui devient d'autre, donc un nouveau terrain d'affrontement entre Moscou et les pays occidentaux. Alexandra Paget.
L'ambiance ne doit pas être à la fête dans la Station Spatiale Internationale. Pour faire bonne mesure, la Russie a aussi annoncé qu'elle arrêtait toute coopération scientifique avec l'Allemagne à bord, où se trouvent actuellement 4 Américains, 2 Russes et 1 Allemand. L'ISS repose en effet sur la coopération. Elle a d'ailleurs été pensée sur un schéma d'interdépendance entre 2 segments. Un Américain qui fournit l'alimentation électrique et un Russe, sans lequel il n'y a pas de correction d'orbite possible. Or, celles-ci sont tout aussi vitales que l'électricité. Et cet arrêt brutal de la coopération spatiale ne concerne pas que l'ISS. La Russie ne lancera plus jusqu'à nouvel ordre de fusées Soyouz depuis Kourou, le centre spatial guyanais d'où des ingénieurs et des techniciens russes ont d'ailleurs été précipitamment rappelés. À Baïkonour, en Russie, des satellites OneWeb sont de leur côté retenus à terre. Un rover européen prévu pour se poser sur Mars a vu son voyage reporté sine die, s'il est toutefois encore question du programme conjoint entre l'Agence spatiale européenne et Roscosmos. La mission ExoMars va très probablement être annulée.
Alexandra Paget, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30, Claire, pour le prochain journal. Les marchés financiers, il est 8h10. Aude Kersulec, en direct du siège d'Euronext à la Défense. A priori, c'est une ouverture à l'équilibre qui se dessine.
Ouais, c'est ça, autour de 0% sur le CAC 40, après moins 0,4% hier, une baisse et puis des hausses minimes les jours d'avant. On va continuer de ne pas faire grand-chose sur les marchés. Ce matin, d'ailleurs, sur les marchés asiatiques, c'est un peu ce qui se passe. On ne sait pas vraiment vers quelle tendance s'orienter, avec le Japon qui est en hausse, mais la Chine et notamment Hong Kong qui baisse. Alors aujourd'hui, on devrait s'atteler à ne rien faire. Surtout, on va attendre 20h, donc largement après la clôture pour les Européens. À 20h, la décision de la Fed, 75 ou 100 points de base, c'est majoritairement les 75 points de base qui sont plébiscités par les investisseurs. On va passer la journée à attendre la Fed, on va passer la nuit à analyser ce que nous a dit Jérôme Powell pour savoir ce qu'il va faire ensuite en septembre. Voilà un petit peu l'état d'esprit. En attendant, on va aussi réagir à ce que publient beaucoup d'entreprises. Alors, il y a celles qui nous préviennent qu'elles vont faire moins bien que prévu. Ça a été le cas de Walmart avant-hier qui a entraîné tout le secteur de la distribution hier à la baisse. Walmart a perdu plus de 7,5% et Amazon plus de 4% hier à Wall Street. Et puis il y a celle qui publie et qui finalement limite la casse parce qu'à force d'avoir prévenu qu'elle ferait que ce ne serait pas bon, et bien les investisseurs finissent par être agréablement surpris par les publications. Ça a été le cas dans le secteur de la tech hier chez Google, Alphabet ou encore Microsoft, où là les actions après bourse sont à la hausse. On verra ça du côté de Wall Street à l'ouverture tout à l'heure. Et puis les autres sociétés a publié aux États-Unis aujourd'hui. On suivra Ford, Boeing ou encore Meta, Facebook. En Europe, ça a déjà bien commencé à tomber, notamment du côté de Danone ou d'Atos, mais on suivra aussi Carrefour, Kering, Saint-Gobain, Téléperformance ou Worldline, ou sur l'indice large, Elior, Elis, Euraseo, Eramet, Fnac, Darty, Nexans et Vallourec. Et puis encore en Europe, on aura au Royaume-Uni, GSK, Lloyds, en Italie, Moncler, ou encore en Allemagne, Deutsche Bank, BASF ou Mercedes aussi qui vient de tomber. Et puis en macroéconomie, on aura des ventes automobiles à suivre aux États-Unis, les commandes de biens durables ou encore les stocks de pétrole avant bien sûr 20h où Jérôme Powell délivrera les investisseurs avec sa décision de politique monétaire.
Merci Aude, on se retrouve tout à l'heure à 9h, ce sera l'ouverture évidemment du marché parisien. À 2 ans du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, vous le savez, tout au long de la semaine, on vous emmène dans les coulisses de l'organisation. Ce matin, direction Saint-Denis, au nord de Paris, là où sera installé le village des athlètes olympiques. Reportage Léo Dumas.
40 grues, 1800 ouvriers mobilisés chaque jour. Le plus gros chantier en lien avec les Jeux Olympiques bat son plein ici à Saint-Denis, c'est celui du village des athlètes. Alors à 2 ans du coup d'envoi des Jeux, on est venu pour faire le point et voir si tout sera finalisé comme espéré.
C'est sur 52 hectares que s'étale le plus gros chantier de France. Établi sur les 3 communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis, jusqu'à 20 000 athlètes olympiques et paralympiques seront accueillis ici pour le plus gros événement sportif du monde. C'est la Solideo, société de livraison des ouvrages olympiques, qui supervise le projet du village des athlètes. Elle doit ici faire sortir de terre logements, espaces de restauration et salles d'entraînement avant 2024. Un vrai défi, nous explique le directeur général de la Solideo, Philippe Rosier.
C'est à la fois une énorme contrainte, mais c'est un formidable accélérateur et c'est un effet de mobilisation. Et donc on arrive à être à la fois très ambitieux, sobre, aussi bien sur l'environnement, mais aussi sur les budgets. Et en fait, tout ça concentre et la prise de décision, en fait, est très rapide. Et donc c'est ça aussi qui permet d'avancer. Et dans une opération normale, ce que je vous disais, ce qu'on va faire en 6 ans, dans la vie normale, c'est entre 12 et 18 ans.
Le défi du temps, mais pas seulement, l'inflation frappe particulièrement le secteur du bâtiment. Mais sans la prendre en compte, la Solideo assure tenir son budget en euros 2016, 3,8 milliards, dont 40% de subventions publiques. Et avec les questions RSE, le cahier des charges est énorme. Et surtout, 2 semaines après les Jeux Olympiques se tiendront les compétitions paralympiques. Dans les espaces publics comme dans les bâtiments du village, les questions d'accessibilité sont cruciales, rappelle Henri Spech, le directeur du projet.
Un exemple très simple, la question de la pente dans les espaces publics qui ont fait l'objet d'ajustements, de réglages dès l'automne 2018, et puis une déclinaison dans les logements avec, un souci du détail, et je pense notamment à l'accessibilité des salles de bain sur lequel il y a un travail extrêmement pointu qui est fait.
Après les Jeux, le village connaîtra une seconde vie, sa plus importante. Sa construction a d'ailleurs été pensée pour son héritage, nous explique Henri Spech.
La réflexion a d'abord porté sur un quartier durable va ouvrir ses portes à de nouveaux habitants à partir de 2025. Et puis le temps, des Jeux s'est adapté à la façon de ce quartier qui, battra son plein en 2025.
Quelques transformations seront nécessaires. Les cuisines inutiles dans les logements pendant les compétitions remplaceront par exemple des salles de bain avant que 6000 habitants et autant de salariés prennent leur quartier dès l'été 2025.
Et demain, Léo Dumas nous emmènera dans le secteur de l'alimentation et de la restauration pour les 15 000 athlètes olympiques. C'est un véritable défi d'alimenter des sportifs de haut niveau, compte tenu également des impératifs environnementaux. On vous racontera tout ça demain dans Good Morning Business. À suivre, Valeo. Valeo qui confirme sa résilience face à la dégradation de la conjoncture et surtout face au ralentissement du marché automobile européen. On en parle juste après la pause avec son directeur général Christophe Perilla. À tout de suite.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
Face à la dégradation de la conjoncture, face au ralentissement du marché automobile européen, l'équipementier Valeo a confirmé sa résilience. Chiffre d'affaires semestriel en progression de 5%, bénéfice en recul de 8%, mais qui est supérieur aux prévisions du marché. Valeo confirme ses prévisions annuelles et anticipe une augmentation de la production automobile mondiale. On va parler de tout ça avec Christophe Perilla, directeur général de l'entreprise. Bonjour.
Bonjour.
Avant de commenter les résultats, une déclaration, la vôtre, qui n'est pas passée inaperçue. Vous constatez une amélioration trimestre après trimestre du marché des puces électroniques. Ça y est, c'est la fin de ces 2 ans de galère.
Enfin, on voit une embellie. Enfin, on voit la production de automobiles capable d'augmenter parce qu'il y aura moins de contraintes, parce que la pénurie des semi-conducteurs s'améliore. Alors, elle s'améliore pas au point où on est capable de produire autant de voitures que les constructeurs le souhaiteraient, mais je pense qu'il est possible d'avoir une production automobile sur le deuxième semestre qui sera meilleure que celle qui a été celle du premier semestre.
Ouais. Vous pensez qu'on retrouvera un marché aussi fluide pour les semi-conducteurs qu'avant la crise sanitaire, ou est-ce qu'on va rester dans une situation de tension ?
on restera sur une situation de tension en 2022. Il y aura même encore une situation de tension en 2023. Mais on a des décisions d'augmentation de capacité qui ont été prises par les fournisseurs de ces composants électroniques. Et donc ces capacités additionnelles, elles se traduiront par des volumes additionnels. Et donc ces contraintes, au fur et à mesure des trimestres, au fur et à mesure des années, diminueront. Oui. On est, si vous voulez, un grand électronicien. Hein. Valeo est un grand électronicien. Un ingénieur sur deux est un ingénieur électronicien. On consomme 250 millions de composants électroniques par jour. Donc on connaît bien.
Essentiel.
Absolument. Donc on connaît bien ce marché et on voit que ce marché s'améliore de trimestre en trimestre.
Le FMI a révisé ses prévisions de croissance pour 2022 et 2023. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que le ralentissement de la croissance mondiale peut faire déraper la reprise du marché automobile?
Non, je ne pense pas. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un déficit de production automobile. Et donc, j'allais dire, quel que soit le marché d'une certaine manière, le déficit de production a été tel en 2020 avec le Covid, il a été tel en 2021 avec la pénurie des semi-conducteurs, que ce retard de production va être résorbé et donc va contribuer à une production solide sur les mois qui viennent.
On va commenter vos résultats. 5% de hausse pour le chiffre d'affaires semestriel, bénéfice supérieur aux attentes du marché. Ça n'était pas gagné quand on voit les chiffres des immatriculations en Europe, quand on voit les difficultés sur les chaînes d'approvisionnement, c'était loin d'être acquis.
Vous avez raison, on n'a pas du tout été épargné par les difficultés au cours du premier semestre. Vous avez eu la pénurie des semi-conducteurs qui continue, comme vous l'avez dit. Le confinement en Chine qui a affecté profondément notre chiffre d'affaires, en particulier au mois d'avril. C'est moins 40% hein, de chiffre d'affaires en Chine en avril. Il y a eu les conséquences de la guerre en Ukraine qui a perturbé la production automobile en Europe. Et puis l'inflation. Voilà, l'inflation, cette vague d'inflation qui a été très forte au premier semestre. Donc, on a un environnement qui a été très compliqué. Et face à cet environnement qui a été très compliqué, oui, je crois, je suis sûr que les résultats de Valeo ont été bons, sont bons et sont en ligne avec ce que nous avions dit lors de notre plan stratégique.
Quel a été le segment ou les segments les plus dynamiques dans votre activité au premier semestre?
Alors, il y a principalement deux segments qui sont très dynamiques, c'est l'électrification et l'aide à la conduite. Enfin, sur l'aide à la conduite, on a une croissance de 13%, ce qui est absolument considérable. Mais ce n'est pas une surprise. L'aide à la conduite, l'électrification, c'est ce qui va porter Valeo. C'est ce qui va porter Valeo dans les 10 ans qui viennent parce qu'on sait positionner vraiment au cœur de cette transformation incroyable, radicale de l'industrie automobile vers une voiture qui sera plus autonome et une voiture qui sera électrique. Et ça, c'est la force de Valeo. On est positionné au cœur de ce qui va transformer totalement notre industrie. Et donc, sans surprise, l'électrification et l'aide à la conduite, c'est ce qui porte la croissance de Valeo au premier semestre.
Vous pensez qu'on va tenir l'objectif que s'est fixé l'Union européenne de ne plus commercialiser de véhicules thermiques à l'horizon 2035?
En tout cas, on s'y prépare. L'industrie automobile s'y prépare et Valeo s'y prépare. Donc, on est extrêmement actif pour mettre en place les technologies, les capacités qui permettront de produire des véhicules électrique à partir de 2035 à 100%.
Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que vous seriez surpris si l'objectif était légèrement décalé?
Tout est possible. Il faut que les bornes de recharge soient là. Il faut qu'il y ait suffisamment d'électricité. Il faut qu'il y ait suffisamment de matières premières. Mais je crois que si les uns et les autres s'attendent, on n'arrivera jamais à tenir un tel objectif. Donc il faut revenir. Pourquoi un objectif comme celui-là est fixé? Il est fixé parce que 18% des émissions de CO2 dans le monde, c'est le transport routier. Donc il faut bouger, il faut avancer très vite. Et c'est la raison pour laquelle Valeo est au cœur de cette, ou s'est positionné au cœur de cette transformation.
La flambée des prix de l'énergie, vous pensez que ça va accélérer la transition?
Oui, certainement. Oui, certainement.
Quand on voit le prix à la pompe, on voit l'impact sur le budget des ménages?
Bien sûr, on voit que beaucoup de personnes réfléchissent à franchir le pas, à acheter un véhicule électrique. Les ventes de véhicules électriques sont très bonnes. Hein, dans
c'est
le monde.
Segment le plus dynamique.
Oui, bien sûr. Dans le monde, aujourd'hui, c'est près d'un véhicule sur cinq. Donc vous voyez, c'est déjà très important alors qu'on est au début de cette transformation. Mais cette transformation, elle accélère considérablement. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, hein, c'était le 4 juillet, on a fait l'acquisition, vous en souvenez, de cette joint venture. On avait une société partagée entre Valeo et Siemens. On a fait l'acquisition des parts de Siemens. Cette société, elle est maintenant intégrée dans Valeo. Et cette société, elle est spécialisée dans quoi? Dans l'électrification haute tension.
On parle beaucoup moins de la voiture autonome. Vous, vous avez parlé d'aide à la conduite. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle moins de la voiture autonome? Ce n'est pas spécifique à Valeo. Hein.
Parce que le véhicule autonome, il a été beaucoup promis et il a été assez peu livré, si je peux me permettre.
Donc, c'est un problème technique ou est-ce que tout simplement... On pourrait avoir du mal à faire cohabiter des véhicules autonomes et des véhicules, j'allais dire, à l'ancienne, avec un volant.
Non, parce que c'est compliqué, parce que la ville est compliquée. Et donc, le véhicule autonome, il va arriver par une amélioration progressive de la technologie. Peut-être qu'on a eu tort, dans l'industrie automobile, de faire croire à un lendemain avec une date où tous les véhicules seront autonomes. C'est pas comme ça que ça se produit. C'est pas comme ça que ça arrive. La technologie, elle progresse étape après étape. Donc on a une aide à la conduite avec de plus en plus de capteurs, de plus en plus de logiciels. Valeo est encore une fois au cœur de ça.
Avec des radars.
Avec des radars, avec des lidars. Et en particulier, on a quand même eu un événement très important au cours du premier semestre, c'est qu'on a le premier véhicule en Europe homologué niveau 3 d'autonomie. C'est-à-dire que vous êtes capable, vous êtes autorisé en tant que conducteur à enlever les mains de votre volant, à quitter la route des yeux. Ça, c'est sur un véhicule, aujourd'hui, homologué en Allemagne. C'est un premier pas qui est extrêmement important parce qu'il ouvre la voie. Et au cœur de ce véhicule, il y a un capteur absolument magique, absolument extraordinaire de vélo qui s'appelle le LIDAR, qu'on vend à maintenant beaucoup de constructeurs. Et on a d'ailleurs une prise de commande très intéressante avec Stellantis au premier semestre.
On a beaucoup présenté la 5G comme un maillon indispensable pour la voiture autonome.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un mouvement très fort vers le véhicule connecté avec de la 5G et ça fait partie des produits de vélo. Je me permets d'insister sur un élément très, très important de nos résultats du premier semestre 2022, c'est les prises de commandes.
Oui.
Vous m'avez interrogé sur l'accélération.
On va parler des perspectives. Voilà,
oui. C'est vraiment essentiel.
Alors justement, les perspectives, vous avez confirmé vos prévisions annuelles. Comment est-ce que vous allez gérer les difficultés qui, même si ça s'améliore au niveau des puces électroniques, les difficultés sont toujours là. Comment est-ce que vous gérez la pénurie de certaines matières premières, les fortes hausses de prix? Parce que ça aussi, c'est important.
Alors oui, je disais, l'environnement, il était très compliqué au premier semestre, en particulier l'inflation. Voilà, l'inflation, c'est un ordre de grandeur d'un milliard de coûts sur l'année pour Valeo. Et donc, il y a une nécessité absolue de passer cette inflation parce qu'on est des industriels à nos clients, c'est-à-dire à nos clients constructeurs. On l'a fait, et on l'a fait... en ligne avec ce que nous avions prévu lorsque j'ai exprimé le plan stratégique de Valeo en début d'année. Donc l'inflation, le confinement, tous ces événements, on les a maîtrisés au premier semestre et ça nous a permis de délivrer une performance bonne, voilà, avec une croissance de notre chiffre d'affaires de 5% sur le premier semestre, avec une génération de cash dans la période qui est solide, hein,
179 millions d'euros.
Et puis, je suis très fier de la performance commerciale de nos équipes, puisqu'on a pris 16 milliards de commandes au cours du premier semestre, à mettre en relation avec un chiffre d'affaires de 9,4 milliards. Donc, vous voyez, quand on a un chiffre d'affaires de 9,4 milliards et des prises de commandes de 16 milliards, ça montre bien la dynamique commerciale exceptionnelle de Valeo en ce moment. J'allais dire en ce moment... et pour les années qui viennent, parce qu'encore une fois, on est au cœur de cette transformation, donc on va accélérer nos prises de commandes.
Est-ce que vous allez pouvoir honorer facilement ces commandes? C'est une question que se posent beaucoup d'industriels. On sait que c'est une question chez Airbus, qui a engrangé énormément de commandes, mais qui aujourd'hui n'a pas les cadences de production suffisantes. Est-ce que vous avez la même difficulté chez Valeo? Est-ce que vous allez pouvoir honorer toutes les commandes avec les difficultés d'approvisionnement?
Oui, j'ai vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Ça fait partie de notre métier. Voilà, on est industriel depuis 100 ans. On a des équipes auxquelles je rends hommage, hein, parce qu'encore une fois, le premier semestre a été très, très compliqué. On n'a pas arrêté nos clients, hein, depuis 19 mois à cause de la pénurie des semi-conducteurs. Donc on a une équipe qui est vraiment une équipe très, très forte. On a des capacités qu'on augmente partout dans le monde pour faire face à ces commandes que je citais qui sont exceptionnelles.
Merci beaucoup Christophe Périlla d'être venu en plateau ce matin, directeur général de Valeo. On le rappelle, 5% de hausse pour votre chiffre d'affaires semestriel et des prévisions annuelles confirmées. Une amélioration aussi qui se dessine trimestre après trimestre sur le marché des puces électroniques selon vos déclarations. Félicitations, merci d'être venu en plateau. On marque une pause, juste après ce sera le journal de Claire Sergent. À tout de suite.
Et on va faire un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent. Vous venez de l'avoir passé devant la caméra si vous nous suivez à la télé. Beaucoup, beaucoup de résultats d'entreprises, évidemment, qui ont été publiés aujourd'hui. C'est un petit peu difficile de tenir les comptes. Claire, vous avez pourtant essayé de garder un œil sur tous les résultats qui viennent d'être publiés.
Et notamment Danone, qui a publié il y a une heure ses résultats semestriels. Et c'est plutôt bon, avec un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à un peu plus de 13 milliards d'euros. Pauline Tadevin.
Oui, les ventes de Danone progressent au deuxième trimestre de près de 8% en données comparables, portées par un effet prix de près de 7%, des hausses de prix qui ont été pratiquées ces derniers mois, et aussi un effet volume mix de près de 1%. Et ce que souligne la direction, eh bien, c'est qu'elle relève ses prévisions de croissance pour cette année entre 5 et 6% en données comparables. Elle s'attend à une marge opérationnelle courante supérieure à 12%. Alors Danone progresse partout dans le monde, y compris en Chine, où il croît de 8% en données comparables sur un an, de 3% au deuxième trimestre sur un an également, porté par la nutrition spécialisée, notamment le lait infantile. On rappelle d'ailleurs que Danone a investi récemment dans une entreprise locale pour renforcer sa production de lait infantile en Chine. Danone souligne aussi sa progression en Amérique du Nord au deuxième trimestre, un peu plus... près de 9% pardon, sur un an comparable, notamment grâce aux yaourts et aux produits d'origine végétale. Alors forcément, la hausse des coûts des matières premières, la hausse des coûts des intrants pèse sur le groupe. La marge opérationnelle courante est en baisse, mais Danone explique que c'est partiellement compensé par cette hausse des prix et aussi par la hausse des volumes. Il bénéficie également des taux de change et de l'appréciation du dollar, des résultats en hausse donc, mais la direction reste sur la même ligne que celle tenue depuis l'arrivée du nouveau patron Antoine de Saint-Afrique à la tête du groupe. C'est bien en résumé, mais il faut encore progresser.
Merci beaucoup Pauline Tadevin. D'autres publications ce matin avec notamment Atos qui passe dans le rouge, une perte d'exploitation de pratiquement 300 millions d'euros sur le premier semestre.
Et oui, mais le groupe de cybersécurité confirme ses objectifs annuels et assure avoir une dynamique commerciale en amélioration. Atos précise que le financement de son plan de scission en deux a été sécurisé avec succès.
Des résultats également dans le secteur bancaire.
Oui, Crédit Suisse accuse des pertes plus lourdes que prévues à 1,6 milliard d'euros. La banque, fragilisée par des scandales à répétition, avait déjà émis un avertissement le mois dernier sur ses résultats en raison du conflit en Ukraine et de ses conséquences sur les marchés financiers. Crédit Suisse qui nomme un nouveau DG, Ulrich Kommer, et remercie Thomas Gottstein. Et de son côté, Deutsche Bank voit son bénéfice augmenter plus 51% en un an. C'est même le bénéfice le plus élevé depuis 2011. Mais parallèlement, la banque allemande relève ses charges. Nous sommes confrontés à des pressions sur les coûts dans un environnement plus difficile que prévu, affirme son directeur financier.
Et puis des publications également aux États-Unis, du côté de la tech, Alphabet et Microsoft ont dévoilé des chiffres hier soir.
Oui, des chiffres en demi-teinte. Bénéfice net en baisse pour Alphabet, touché par l'effet de change défavorable et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour Microsoft. Le dollar fort pèse, mais aussi et surtout les ventes de PC et de jeux ralentissent à New York. La correspondante de BFM Business, Karine Houten.
Oui, des résultats un peu décevants pour Microsoft par rapport aux prédictions. Les analystes s'attendaient à 2,29$ de bénéfices par action pour ce deuxième trimestre. Ils ne seront finalement que de 2,23$. Microsoft est pénalisé par la hausse du dollar, par le ralentissement des ventes de PC et puis par la baisse des recettes publicitaires. Bilan un peu meilleur pour Alphabet, tout simplement parce que les analystes s'attendaient à pire. La maison mère de YouTube et de Google termine en fait ce trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse grâce principalement à une résilience des recettes publicitaires qui, malgré l'inflation qui grignote les budgets marketing, et puis grâce aussi à de bons résultats dans ses activités de cloud, d'informatique à distance. En tout cas, après les résultats catastrophiques de Snapchat la semaine dernière, la croissance pub de Google devrait redonner un peu de confiance au marché ainsi qu'au milieu de la tech.
En France, Dassault Systèmes a relevé ses objectifs pour 2022.
Oui, son chiffre d'affaires progresse de 16% sur un an. L'éditeur de logiciels a dépassé les attentes au deuxième trimestre. Moteur de sa croissance, l'activité industrielle qui résiste malgré les difficultés liées au conflit en Ukraine et les confinements successifs en Chine. Le DG de Dassault Systèmes, le directeur général de Dassault Systèmes, Bernard Charles, était l'invité de BFM Business hier soir. Il a donné les raisons du succès.
À la fois du point de vue géographique, du point de vue couverture des industries.
comme je vous l'indiquais, il y a une croissance à deux chiffres à peu près dans les industries les plus importantes pour nous. Comme vous savez, la santé est un secteur devenu très stratégique pour Dassault Systèmes, aussi important que l'aéronautique, par exemple, et où nous avons une croissance élevée, hein, puisqu'elle est autour de 17% sur la première moitié de l'année, et une très bonne visibilité. Et je rappelle que ce chiffre d'affaires est un chiffre d'affaires de souscription, c'est-à-dire avec une visibilité long terme.
Toujours dans l'actualité entreprise, un gros point d'interrogation en ce qui concerne la fusion entre TF1 et M6.
Ah oui, un premier rapport de l'autorité de la concurrence n'est pas favorable au projet. C'est ce qu'annonce le dirigeant d'M6, Nicolas de Taverneau. Le rapport pointe des problèmes de concurrence significatifs, notamment dans la publicité télé, sans préjuger de la décision finale attendue en octobre. Toutefois, les dirigeants des deux chaînes avertissent, les remèdes préconisés pourraient enlever toute pertinence au projet de rapprochement qui n'aurait donc plus lieu d'être.
Un chiffre qui a retenu notre attention, c'est le nombre d'auto-entrepreneurs qui continuent de progresser.
Ah oui, l'URSSAF publie aujourd'hui son bilan 2021 de l'évolution de ce dispositif. Et les auto-entrepreneurs sont toujours plus nombreux, Raphaël Couder.
Oui, le dispositif continue d'attirer. L'URSSAF dénombrait à la fin de l'année dernière près de 2,3 millions d'auto-entrepreneurs en France, soit 300 000 de plus qu'un an plus tôt. Ce n'est pas ce que vous voyez à l'écran, mais ce n'est pas grave. Une hausse donc de 15% en un an qui s'explique principalement par la hausse des immatriculations, 16% d'immatriculations en plus en un an. Parce qu'il y a eu 700 000 créations de nouvelles auto-entreprises l'an dernier et sur la même période, 400 000 radiations environ, des radiations notamment pour absence de chiffre d'affaires. Autre élément intéressant de ce bilan, le chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs est toujours en forte progression, plus 26,5% au quatrième trimestre de l'année dernière. On franchit la barre des 6 milliards d'euros de ventes pour ce type d'entreprise. C'est le plus haut niveau jamais atteint depuis la création de ce dispositif. Les auto-entrepreneurs sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à déclarer un chiffre d'affaires, 18% en plus en un an. Et les secteurs les plus dynamiques, ce sont ceux qui ont été le plus touchés par la crise sanitaire. Vous les voyez, le nombre d'entrepreneurs économiquement actifs est en hausse de 38% dans les arts et spectacles et de 35% dans les activités sportives.
Merci beaucoup Raphaël. On en sait un petit peu plus clair sur le projet de réforme de l'assurance chômage que le gouvernement souhaite mettre en place.
Eh oui, quand ça va bien, on durcit les règles, quand ça va mal, on les assouplit, résume Olivier Dussopt dans les colonnes du Parisien ce matin. Parmi les pistes envisagées, la durée de l'indemnisation avec une dégressivité des allocations. Et en ce qui concerne le RSA, il y aura bien 15 à 20 heures d'activité demandées qui pourront être soit des stages, des formations ou des immersions en entreprise, détaille le ministre du Travail. Les discussions sont prévues à la rentrée avec les partenaires sociaux.
Merci Claire, on se retrouve tout à l'heure à 9h, ce sera notamment le coup d'envoi de la séance à la Bourse de Paris. On va parler justement de la séance à présent. Avec Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Le temps fort, ce sera évidemment ce soir 20h, publication du communiqué de presse de la Réserve fédérale américaine sur sa hausse de taux. Ça veut dire quoi? Qu'on va passer la journée à attendre?
Non, effectivement, il y a cette hausse de taux de 75 points de base, hein, très certainement à 20h. Mais en parallèle, il y a beaucoup d'actualités pour cette séance extrêmement chargée qui nous attend. On a notamment la publication de plusieurs grands groupes internationaux, hein, tout au long de la séance, notamment Meta dans la soirée, anciennement Facebook, Boeing, Airbus, Kering, Danone ou encore Saint-Gobain. Et surtout, au-delà de la Fed et de ses publications, eh bien ces éléments viendront s'ajouter au contexte de ce début de semaine, hein, marqué par les inquiétudes sur les livraisons de gaz russe à l'Union européenne et par l'abaissement des prévisions de croissance du FMI. Voilà, donc on a vraiment une séance extrêmement chargée avant celle de demain, avec notamment la publication de la croissance américaine pour le deuxième trimestre. Voilà, et un petit mot enfin sur les contrats futurs, puisque pour le moment, ils annoncent donc une ouverture en hausse de 0,60% pour le CAC 40 au-dessus des 6200 points.
Donc actualité américaine, on l'a bien compris, on a eu ce matin beaucoup de publications de résultats, on en a encore beaucoup demain sur l'agenda en France. Quel est votre sentiment par rapport à tous les chiffres qui ont été annoncés ce matin? C'est difficile évidemment de tout analyser immédiatement, mais on a quand même l'impression que les entreprises sont plutôt résilientes.
Effectivement, à la surprise, je dirais, de pas mal d'observateurs des marchés financiers, c'est plutôt, pour le moment en tout cas, une bonne saison de publication des résultats trimestriels. On l'a vu, ça a soutenu ces 3-4 dernières semaines les principaux indices boursiers mondiaux, alors que le contexte ne cesse de s'assombrir, et en particulier avec l'abaissement des prévisions de croissance pour 2022 et pour 2023. Voilà, donc c'est principalement ça, en ce moment, en tout cas, la colonne vertébrale des marchés financiers, qui lui permet de démontrer toute sa résilience, ce petit rebond sur les dernières semaines.
Merci beaucoup Dorian Abadi, analyste bourse chez Meilleur Taux Placement. 8h40 exactement sur BFM Business et RMC Découverte. Une question à présent. Quelle est la procédure pour une entreprise qui souhaite embaucher un travailleur étranger? Sachez que les règles ont été modifiées en début d'année. Ce n'est plus le ministère du Travail désormais qui s'occupe des formalités. Écoutez les explications de Lorraine Goumeau.
Good morning business, BFM Business avec vous.
Notre question ce matin, elle nous vient d'un auditeur qui nous écrit « Je suis titulaire d'un permis de séjour. Je souhaite travailler dans une entreprise en région parisienne qui est tout à fait d'accord pour me recruter. Est-ce à moi de faire les formulaires, les formalités pour obtenir une autorisation de travail ?» Alors sachez que la procédure a été profondément remaniée depuis le 1er janvier. C'est désormais à l'employeur d'effectuer toutes les formalités pour obtenir une autorisation de travailleur pour un ou une salariée étrangère. C'est une procédure spécifique qui doit être respectée, c'est ce que nous dit notre avocat Nicolas Mancret. Les services de la main-d'œuvre étrangère du ministère du Travail, le MOE, ont été supprimés. Ce sont désormais les services des préfectures, hein, qui dépendent donc du ministère de l'Intérieur, qui ont la charge d'instruire toutes les demandes d'autorisation des travailleurs salariés, d'autorisation de travail des salariés étrangers. Il y a 7 plateformes en tout, je vous en cite quelques-unes, une à Béthune, une à Tulle, une à Clermont-Ferrand, une en Guyane aussi, qui viennent eh bien, instruire effectivement toutes les demandes d'autorisation de travail.
Vous êtes peut-être déjà sur la route des vacances. Juste après la pause, Frédéric Simotel et Anthony Morel vous présenteront les dernières innovations technologiques pour sécuriser au maximum justement votre trajet sur les routes de France. On en parle donc après la pause.
BFM Business, les chroniques de l'été. Culture Geek, Frédéric Simotel, Anthony Morel.
Salut Fred.
Salut Anthony.
Bon, il y a une grosse affluence sur les routes en ce moment, évidemment, avec tous les départs en vacances. On va parler sécurité routière. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de voitures intelligentes, de voitures connectées. Ça devrait être capable de faire baisser de manière significative le nombre de morts et d'accidents sur la route.
Oui, en attendant l'autonomie complète hein, sur les autoroutes, pourquoi pas. Je pense qu'on y arrivera sans doute un jour. C'est vrai que la voiture de demain, elle a plusieurs capteurs. Et notamment, on sait que souvent dans les accidents, qu'est-ce qui se passe, surtout dans ces départs de vacances, on s'endort, on a l'esprit qui est occupé par autre chose.
C'est une grosse cause d'accident.
Et justement, comment faire? Les voitures sont de plus en plus intelligentes. Alors, soit à travers la ceinture de sécurité, soit à travers le fauteuil, soit carrément des petites caméras qui sont disposées sur le tableau de bord et qui vont filmer comme ça la dilatation de nos pupilles, qui vont voir si on est en train de un peu de s'assoupir.
Ah oui, donc la caméra filme et la ceinture, elle analyse le rythme cardiaque.
Voilà. En fait. Et donc, on a tous ces capteurs qui vont permettre de lancer une alerte, de hausser le son, enfin, de lancer vraiment une alerte pour réveiller un peu le chauffeur. Alors, soit pour le réveiller, soit carrément, si la voiture, elle sent que ça va pas très bien, elle va aller se garer. C'est là où il y a la conduite automone, elle va aller se garer tranquillement sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur un parking. Donc on voit tout ça arriver. Alors elle va regarder ce qui se passe dans l'habitacle, mais elle peut aussi regarder ce qui se passe hors de l'habitacle. Alors ça, c'est vraiment de l'apprentissage, parce qu'on sait, je prends toujours cet exemple, je suis en train de conduire, je vois un enfant qui joue avec un ballon, je vais garder un œil sur l'enfant au cas où les deux travaillent. La voiture autonome, elle, c'est seulement au moment où il y aura le ballon et l'enfant qu'elle va réagir. Ça donc c'est tout ça, il y a tout cet apprentissage. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment en train de travailler cette intelligence artificielle qui va détecter tous les mouvements autour de la voiture, qui va même prévenir s'il y a des accidents d'autres voitures en disant attention, là il y a pas mal de passages, il y a pas mal de piétons.
Donc, qui va servir d'ange gardien d'une certaine manière pour le conducteur, et ça va même plus loin que ça, parce que la voiture de demain, elle sera capable de prévenir les secours carrément.
Oui, alors certaines voitures sont déjà capables, quand elles sentent qu'il y a quelque chose, d'appeler les secours. Mais là, ça va aller plus loin, c'est un pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a eu un impact, eh bien il y a des capteurs qui vont dire tiens, quelle est la vitesse de l'impact, est-ce que les airbags se sont déclenchés, est-ce qu'il y a eu d'autres malformations dans la voiture, et puis elle va faire faire un diagnostic, elle va voir est-ce que les gens ont pris un choc très fort au niveau des organes, au niveau de la tête, au niveau des bras. Et donc, elle va faire ce pré-diagnostic pour peut-être envoyer ces informations déjà aux ambulances qui sont en train d'arriver, voire dire, envoyez plutôt un hélicoptère parce que là, on est dans une situation assez dramatique.
C'est plus Dr House, c'est Dr K, en fait.
C'est ça.
Non, mais on en rigole, mais c'est hyper sérieux parce que la réduction des morts sur la route, ça passe par toutes ces technologies que tu viens de décrire. Ça passe aussi par le développement de nouveaux types de matériaux qui vont mieux résister au choc, par exemple.
Oui, et Google travaille, dépose un brevet là-dessus pour une carrosserie souple, c'est-à-dire la carrosserie, elle va capter si on tape un piéton, malheureusement, qui a traversé tout d'un coup devant, la carrosserie
elle comprend en fait que c'est un piéton.
Elle va comprendre et elle va changer sa forme, changer sa texture et elle va devenir un peu plus molle.
Boing.
Boing plutôt qu'un gros bong. Et de la même façon, si elle se rend compte que c'est un poteau ou un mur, elle va un peu se durcir pour protéger les gens dans l'habitacle. Il y a même une techno qui est encore plus drôle. C'est parce qu'on parle d'accident, mais c'est avoir un adhésif sur le capot. Et si on renverse quelqu'un, parce que souvent le piéton il est sur le capot et après il retombe et c'est là où on roule dessus, malheureusement. Quand ça arrive, et bien là, il y a un espèce de capot adhésif et le piéton qu'on a renversé, il a resté sur le capot.
C'est le papier tue-mouche.
Voilà.
pour la voiture.
C'est un peu ça.
On en rit, mais c'est des technologies. Alors c'est des brevets. Par Google, on sait pas si ce sera industrialisé, mais c'est des technologies qui sont très sérieuses et qui pourraient effectivement sauver des vies. Donc voilà, je pense qu'on est prêt à partir en toute sécurité.
Exactement.
Merci Fred.
BFM Business, les chroniques de l'été.
Le monde d'après, on a beaucoup utilisé cette expression au moment de la crise sanitaire. Quels sont les gagnants et les perdants de ce nouveau monde? C'est le débat de ce mercredi avec Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 7, les gagnants et les perdants du monde d'après. Alors j'ose une question provocatrice, est-ce que dans tout ça, l'Europe peut tirer son épingle du jeu? Tiens, je vais pas commencer pour une fois, c'est toujours moi qui commence, qui mouille en premier. Qui veut commencer sur les gagnants et les perdants du monde d'après? Ça peut être par secteur, ça peut être par pays, même par grande tendance, Emmanuel Le Chypre.
Bah, on voit bien, alors ce qui est intéressant je trouve dans les deux crises qu'on vient de traverser, c'est que un peu comme pour la démographie, d'habitude quand les grandes crises sont mondiales, elles ont tendance à frapper à peu près uniformément tous les pays, tous les secteurs et même toutes les catégories sociales, même si effectivement pour les moins favorisés, c'est toujours beaucoup plus dur que pour les... Là, on a quand même une crise partie de la crise sanitaire qui a des effets extrêmement contrastés sur les grands secteurs. Quand vous regardez par exemple, c'est assez amusant, l'évolution des cours de bourse des 20 grands secteurs de l'économie mondiale. Si vous regardez, par exemple, après la crise financière de 2008, ils sont tous en baisse. Si vous regardez là, après les 6 premiers mois de crise sanitaire, vous en avez 4 ou 5 qui sont en très forte hausse, 4 ou 5 qui sont en très forte baisse, et une dizaine qui sont un peu entre deux autres. Donc c'est bien qu'il y a des grands secteurs gagnants, qui sont la pharmacie, la technologie, et puis des grands secteurs perdants, qui sont le transport, l'hôtellerie, etc., le tourisme.
Et ça c'était Covid, et là maintenant il y a l'Ukraine.
Ça c'est Covid, alors effectivement. Et après, quand on regarde aujourd'hui, que vous mettez tout ça bout à bout, et que vous regardez les grands gagnants, Et les grands perdants, moi je vois deux grands gagnants qui sont quand même, un, d'abord la Chine, deux, les États-Unis, parce que notamment les États-Unis, en étant, autosuffisants en énergie, finalement ils sont même exportateurs nets, ils sont grands gagnants de la flambée des prix, et que ceux qui sont vraiment en difficulté au milieu, ce sont les Européens. Et après ça, il y a des grands perdants qui sont effectivement la Russie, bien évidemment, qui va sans doute
disparaître
de l'économie mondiale. Alors
c'est
en
très
Europe,
frappant, ça,
effectivement, bien sûr,
c'est très frappant,
bien sûr, et effectivement la zone la plus en difficulté. Quand vous regardez à la fois ces difficultés sectorielles, c'est-à-dire qu'honnêtement, sur le plan technologique, il n'y a eu aucun rattrapage européen. Donc c'est toujours les États-Unis, la Chine et l'Europe, quasiment rien au milieu. Et puis, qui est le plus frappé effectivement par la guerre en Ukraine? Parce que c'est son sol, c'est l'Europe. Parce qu'on est dépendant de l'énergie du reste du monde, c'est l'Europe. Et que le pays, effectivement, qui est vrai, peut-être... économiquement, à défaut d'être financièrement l'homme malade de l'Europe, c'est quand même l'Allemagne.
Ouais, parce qu'en fait, tous les leviers qui ont fait la réussite de l'Allemagne
sur le plan sectoriel, voilà, etc. C'est compliqué.
Les matières premières étaient fabriquées en Europe occidentale, enfin en Europe orientale plutôt, et ensuite étaient assemblées en Allemagne. Oui, sauf qu'il y a pas mal de ces pays qui aujourd'hui sont un peu dominés par des régimes politiques relativement durs. L'Asie, elle est devenue le premier client. Avoir comme premier client la Chine aujourd'hui, c'est parfois compliqué. On allait faire baisser les coûts de l'énergie en renonçant au nucléaire, en achetant du pétrole pas cher aux Russes. Et voilà que tous ces éléments-là sont en train de se retourner contre le modèle allemand. Moi, je rajouterais des tendances quand même, pas dans les les gagnants du monde d'après. Le télétravail sera quand même quelque chose, dans mon avis, vraiment durable. Et je pense que la transition verte aussi fera partie des tendances qui vont s'imposer. Et également les comportements RSE. C'est cette recherche de proximité, cette recherche de circuits courts, cette recherche d'éco-responsabilité. À mon avis, ce sont des éléments qui vont être plutôt ressortir gagnants. Tandis que dans les perdants, il y a le pouvoir d'achat, qui à mon avis sera quand même l'un des grands perdants du monde d'après. Il y a les jeunes. Vous savez, l'histoire de les convulsions de l'inquiétude, la léthargie de l'ennui ou les convulsions de l'inquiétude, que vous avez exhumées de Candide, de Voltaire, pour eux, c'est les convulsions de l'inquiétude qui les attendent. Hein. Et puis, les États qui vont être plombés par des charges de dettes monstrueuses. Qu'est-ce que vous metteriez dans notre...
Ça les sortira de la civilisation pyjama, un peu, aussi.
Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Non, remarque, dans les gagnants-perdants de ce monde d'après.
Vous avez abordé les choses de façon...
Très désordonnée.
Différente. Emmanuel a parlé des pays, ou plutôt des secteurs, des modes d'organisation. Non, en termes de pays, je pense que un des grands perdants, c'est la Chine. Ah. La Chine est en déficit de sa balance des paiements courants. La Chine est de plus en plus montrée du doigt sur ce qui s'est passé autour de la pandémie. Il y a de plus en plus de gens qui l'accusent d'avoir été à l'origine plus ou moins
On n'aura jamais de vérité.
Oui, on ne saura jamais. Et on s'aperçoit qu'elle est en train de perdre tout un tas de marchés au profit du Vietnam. Et c'est un pays qui, en plus, est en le lieu en ce moment d'affrontements assez sévères entre différents clans. On l'a vu d'ailleurs avec le confinement de Shanghai, qui était un confinement qui était voulu depuis Pékin, et auquel s'était opposé le Premier ministre, qui était de la région de Shanghai. Donc je crois que c'est un pays qui a mangé...
Sur l'énergie, Jean-Marc, ce qui se passe en Russie est quand même une très bonne affaire pour l'approvisionnement énergétique des Chinois.
Oui, mais enfin, ce bénéficie aux Russes. Les Chinois, ils achètent quand même le pétrole des Russes à un prix qui est relativement élevé. Et alors, effectivement, justement, le pétrole est en train de redistribuer les cartes, et on le voit dans la distribution des balances des paiements courants. Les pays qui dégagent maintenant des excédents de balances des paiements courants, c'est clairement les pays pétroliers. Ouais. On parlait dans une précédente chronique de l'Arabie Saoudite, qui est le pays où la croissance va être la plus forte. Et on s'aperçoit que les pays qui avaient traditionnellement des excédents comme le Japon et l'Allemagne sont désormais pratiquement à l'équilibre de leur balance des paiements courants, et ils vivent beaucoup sur la rémunération des excédents qu'ils ont acquis précédemment. Donc il y a, à mon avis, un déport de l'épargne, des revenus vers les pays producteurs de pétrole et vers les pays producteurs d'énergie. Et ça, je pense que tout le monde est perdant, parce que ce sont des pays, quand on regarde leur classement dans les pays les plus innovants, qui sont les moins bien placés. Je prends assez souvent la comparaison entre la Suède et la Norvège. La Suède est le deuxième ou le troisième pays le plus innovant au monde suivant les classements, et la Norvège est le 20e. Alors que ce sont deux pays qui ont la même tradition historique. Et donc je crois que le gros problème, c'est que les gagnants, c'est les rentiers, et donc les perdants, ça va être les entrepreneurs.
On parlait de l'Europe, on s'est pas étendu sur l'Europe. J'attends de voir ce qui va se passer pour l'automobile européenne, dans les secteurs qui risquent de perdre...
12 millions d'emplois, l'automobile européenne. Hein, et quand on regarde les pays qui se sont le plus opposés à la date de 2035 comme passage à la... C'était l'Italie, la Roumanie et la Slovaquie qui sont les trois lieux privilégiés de production automobile en ce moment.
Prochain marqueur du monde d'après, dette, qui va payer ?
BFM Business, les chroniques de l'été.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews en podcast, en replay sur notre site BFM Business. Demain à 8h15, Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, sera avec nous pour parler de la reprise dans le secteur aérien et des difficultés, ou en tout cas des challenges en termes de production. Passez une très bonne journée, à suivre sur BFM Business, la météo puis les experts avec Emmanuel Lechypre.